Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Attends, Qu'est-ce qui se passe?
Le thé, la tasse de thé pour moi.
La tasse de thé est-il pour Fabien? La tasse de thé est-elle pour Fabien? Merci. Donc pendant ce temps-là, un grand moment de radio. On y croit, on mord dedans. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Après ce léger petit ratage, j'ai relancé le générique. Nous sommes aujourd'hui avec Fabien Invine. Fabien, est-ce que ça va? Est-ce que
tu as la forme?
Nous sommes avec Colin. Colin, ça va la pêche?
Ça va très bien, merci.
Nous sommes également avec Flavie.
Coucou.
Ça va la pêche, Flavie?
Oui, ça roule.
Nous allons aujourd'hui tester un jeu ramené par Fabien Invine dans sa besace qui s'appelle... Psyrun,
ouais.
Un jeu intéressant dans la mesure où il fait écho, juste petite remarque, il fait écho à une remarque que Natacha avait fait dans le podcast tout début de l'année, le podcast de rentrée. Natacha disait, il n'existe pas de possibilité dans le jeu de rôle, en tout cas c'est ce qu'elle avait l'air de supposer, de découverte de pouvoir, comme dans le film Spider-Man, on découvre ses pouvoirs au fil d'une aventure. Et Fabien, tout à fait par hasard, pas du tout pour répondre à ce propos de Natacha, nous a ramené un jeu dont, paraît-il, c'est l'un des propos. Fabien, de quoi s'agit-il donc, Psyrun?
Alors, il s'agit d'un jeu de Mega Baker et de deux autres auteurs qui s'appellent Lindner et Moore, dans lequel on joue... Je vais revenir sur les trois auteurs, enfin, l'autrice...
Baker.
Alors, c'est pas Vincent cette fois-ci, c'est Meg. Il me semble que c'est sa compagne, si je ne me trompe pas. Dans lequel on joue des. Enfin, vous jouez des gens qui sont amnésiques, qui se réveillent à un crash. Vous avez des pouvoirs psy, vous vous souvenez de rien, et il y a des gens qui vous poursuivent. A priori, pas pour vous faire du bien. Donc.
Ah, je suis contente de jouer à ce jeu parce que moi j'ai une théorie sur les jeux où tu joues des amnésiques. Pour moi, c'est pas jouable. Donc, ça, je suis contente de.
Oh mon dieu, le podcast est déjà foutu.
Ouais, c'est ça, c'est la quête.
Non, pitié, essayez quand même de jouer. Oui, je précise que ça m'arrive pas. D'habitude, je le fais pas. Mais là, j'ai pas testé le jeu avant. Donc, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous.
Bah, c'est génial.
J'ai lu les règles. Les règles me semblent bien tenir la route. Et je sais pas. Donc voilà, c'est un peu un risque qu'on prend, mais les règles m'ont l'air suffisamment solides pour que ça tourne bien. Pour situer un peu le jeu, donc c'est un jeu américain. Mega Baker, donc c'est comme dit une proche de Vincent Baker. Quand on regarde les gens qu'elle remercie, Emile Kerbos, il y a Vincent Baker a dessiné aussi pour le jeu. Donc c'est vraiment un jeu de The Forge qui est sorti. Alors, il y a, en fait, Chris Moore et Michael Lindner, apparemment, ont fait une première version du jeu en 2007 et le jeu a été repris en main par Mega Baker qui en a sorti, qui a ensuite créé les règles avec lesquelles on va jouer. Et donc, il a été traduit en français en 2015 par Electric Goat, qui est en fait le label d'Alexis Lamiable, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais... Vu son travail, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et la manière dont il a fait ça. Je pense que ça, c'est peut-être un truc qu'on verra, enfin, on discutera.
On en parlera peut-être après.
Et c'est vraiment, bon, ça démarche. Puis bon,
j'ai hâte de savoir pourquoi tu kiffes ce garçon. Là. Tu as l'air d'être en mode.
Son travail. Bon travail. Non, vraiment, il a. Enfin. Je sais pas. Je crois, sauf erreur de ma part, je crois pas, jamais l'avoir rencontré et j'admire vraiment ce qu'il a fait. Voilà. Alors, comment ça se joue? La première scène, ça va être ce qu'on appelle la scène de crash, c'est-à-dire vous vous réveillez, c'est le bordel, vous êtes amnésique, et puis en fait le transport qui vous transporte d'un endroit à l'autre, c'est votré et vous éparpillez dans la nature. Vous savez qu'il y a des poursuivants qui sont à votre poursuite que vous ne connaissez pas ou mal, et en fait vous allez aller de lieu en lieu. Et moi, j'amène des difficultés, des problèmes, c'est plus ou moins moi qui crée des situations, mais vraiment là pour le coup avec le pitch du jeu, hein, pour vous obliger à avancer, sachant que voilà, vous avez des poursuivants à votre trousse et que s'ils vous rattrapent, ça va vraiment, enfin vos personnages peuvent disparaître et mourir.
Alors faut savoir un truc, c'est qu'en même temps que il est en train de parler des poursuivants. Fabien est en train de tripoter des petites figurines qui sont au milieu de la, au milieu de la table, des petits personnages. Je le précise parce que c'est important quand même. Oui. C'est-à-dire que les poursuivants ont l'air d'être les petits bonhommes noirs. Il y en a
noir,
trois.
Et vous êtes les petits bonhommes colorés.
Et nous, on est les petits bonhommes de couleur.
Et donc...
Donc déjà, il y a une dimension à moitié jeu de plateau dans la mesure où il y a des pions.
C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on va appeler... Donc il y a plusieurs feuilles. Il y a les feuilles de personnages que vous avez devant vous, avec en haut les feuilles de risque qu'on utilisera pour la résolution. La résolution, grosso modo, on lance entre 4 et 6 des 6. Et ensuite, on répartit les résultats sur les différents risques qui sont dessus. Tu vois, est-ce que tu atteins ton objectif? Est-ce que tu prends une blessure? Si tu utilises ton pouvoir, est-ce que ton pouvoir fonctionne? Ou est-ce que... Enfin, ton pouvoir, en tout cas, fonctionne toujours, mais il y a des bonnes chances qui merdouille.
Des complications.
Ouais. Est-ce que tu rappelles des souvenirs? Est-ce que tu retrouves qui tu es? Est-ce que les poursuivants avancent? Et il y a encore deux, trois autres subtilités qu'on verra un peu après. Donc, pour ceux qui se souvenaient de Blistage, oui, c'est ça, dans Blistage, on lance aussi comme ça tout un tas de dés et on les répartit sur différentes possibilités. Et je crois que la mécanique, si je ne dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises, à l'origine provient de Ghost Echo de Ben Harper.
Alors là, il ne faut pas me regarder, je connais pas du tout le travail de Ben Harper. La seule chose que je sais de Ben Harper, c'est qu'il participe, parce que j'ai lu ses messages,
je me trompe toujours sur
la machine à saucisses.
Je me trompe toujours sur son prénom, parce que je sais qu'il y a il me semble un musicien aussi, mais il s'appelle Harper, bref. Ghost Echo fonctionne aussi comme ça, et c'est extrêmement intelligent comme mécanique, on y reviendra peut-être après.
Ah d'accord, c'est sur son prénom que tu avais un doute.
Ouais. Okay. Il y a une feuille.
Ça me dit quelque chose, Ben Harper, quand même.
Bah, c'est le mec qui a fait Ghost Echo, qui a fait Agon, qui a fait.
C'est un guitariste.
Agon, d'ailleurs. Pas
Agon. Ben Harper, c'est le nom du guitariste.
Mais
Il y a un musicien
qui
s'appelle.
Je suis désolé.
Ah ouais, donc ça doit pas être.
Il y aura certainement des gens qui nous. Enfin, on précisera ça. Et donc, il y a une feuille pour décrire les poursuivants. Ça, à la limite, on peut s'en passer. Et la feuille avec les petits pions, c'est ce qu'on appelle la feuille de piste. C'est-à-dire que ça commence par le crash. Et ensuite, vous allez de lieu en lieu, des lieux que vous décidez plus ou moins vous-même, et vous avancez, et derrière vous, il y a les poursuivants. Et donc moi, mon but, c'est de vous... Alors, il y a des règles pour les joueurs et pour le MJ, et notamment des règles pour le MJ qui sont assez sympas, du genre, soyez fan des personnages, c'est-à-dire, mettez-leur des jetons, mais vous n'êtes pas là pour les buter. Ce qui est une excellente règle, parce que, c'est-à-dire que si on voulait, tu peux dire, tu peux ensevelir les personnages.
Dans un marécage, dommage.
Ouais, tu peux ensevelir les personnages sous les problèmes, c'est pas le but. Il faut arriver, je pense, à juste maintenir le bon niveau d'enjeu pour que tu aies envie d'avancer.
Et puis, un sous-entendu, ça veut aussi dire qu'il faut les mettre en valeur.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je crois qu'on a... Ah oui, comment la partie se termine-t-elle ? Là, on va jouer... en fait, vous aurez chacun 4 souvenirs. La première personne qui a fini tous ses souvenirs, qui a répondu à tous ses souvenirs, on arrête la partie et là il y a une série de scènes dans lesquelles on choisit ce que vont devenir les personnages.
Qu'est-ce que tu entends par répondre à ces souvenirs ?
Tu vas écrire des souvenirs qui sont des questions, donc qui sont sur ta feuille de personnage, avec des exemples. Alors attends, qu'est-ce que c'est ? Où est Molly ? Je pense devoir aller à New Falls, dans l'état de New York. Pourquoi ? J'ai une clé inscrite avec Washburn. Qu'est-ce que Washburn ? À qui appartenait le manteau donc que j'ai sur moi ? Et pour que j'y sois aussi attaché. Voilà, tout le monde des trucs comme ça. Un des personnages qui est présenté dans le jeu, il a une mallette qui est relié à son poignet par une menotte, une manette qui n'arrive pas à ouvrir. Donc, qu'a cette boîte de particulier ? Ma femme est-elle encore en vie ? Je sais ce qu'il pense, mais comment est-ce possible ? Donc ça, c'est un de ses pouvoirs psy. Voilà. Et quand on arrive là, on verra, mais il y a une série de scènes pour raconter la fin de ce qui se passe.
Très bien. Eh bien, je propose d'y aller direct. Et puis on débriefera tout ça, on verra si le jeu réussit son pari à la fois de faire jouer des amnésiques et de nous faire découvrir des pouvoirs en jeu. C'est parti, on y va ! Fabien, c'est bon. Tout le monde a son micro ?
Ouais.
Prenez le micro.
Absolument.
On y va. Fin de la partie de Psy Run. J'ai des tas de questions. D'abord, On disait avant même que ce podcast ne commence que c'était énorme. C'est un jeu qui a des mécaniques énormes, énormes mécaniquement. Par contre, moi, j'aurais des choses à dire du point de vue de la couleur du jeu.
Ouais. Ça, c'est autre chose. Il faudrait qu'on en discute.
Ouais.
On parle d'abord un peu de la fiction, des personnages. Je vous propose de parler donc d'abord des personnages. Les personnages, pour rappel, ils sont créés de deux manières différentes. Enfin, il y a deux choses à répondre. Il y a quand je me regarde dans le miroir, je vois. Et ensuite, quatre questions. On peut en créer plus, mais...
Nous, on voulait une partie courte, donc on a...
Voilà, donc qui sont les règles qui sont annoncées dans le livret. Il y a un truc pour faire des parties de convention, en fait, dans le livret.
Alors moi, je conseille vivement aux gens qui jouent à ce jeu de faire une première partie courte. Hein, parce que moi, j'ai les nerfs en pétard, je suis épuisé. C'est-à-dire qu'à partir de trois révélations, j'avais la cerveau, j'en pouvais plus.
Alors, ouais,
à deux heures de jeu, j'ai eu un gros down, j'étais crevé.
Je te propose d'en discuter après, parce qu'à mon avis, il y a... on a une utilisation qui est très particulière. Le one shot, ça crée des contraintes qui rentrent le jeu dans une certaine direction. Donc, parlez-nous un peu de vos personnages au départ. Fly.
Alors, moi, j'avais décidé de m'appeler Lena H, c'est-à-dire comme je suis amnésique, je ne me rappelais pas de mon nom de famille. Mon âge apparent, c'est 21 ans, je sais manipuler l'électricité. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois une jeune femme vêtue d'un long manteau de cuir noir. Mes cheveux sont noirs à l'exception de quatre mèches rouges. J'ai de grosses bottes, un jean et un haut à guicheurs. Je porte une croix catholique. Un A tatoué apparaît sur mon bras et en gros, il vient d'être tatoué. Et dans mes questions, il y avait pourquoi ces lumières s'allument-elles ? Pourquoi cette tenue, ça ne me ressemble pas ? Que veut dire ce A ? Et mes doigts sont-ils dangereux ?
Ok. Colin ?
Alors moi, mon personnage s'appelait Silène. Quand il regardait dans le miroir, il voyait un homme d'âge mûr, de grande taille, amacié, avec un veston en cuir noir. Il avait plus de cheveux et des lunettes rondes. Mon pouvoir psy, c'était un être de lumière m'est apparu, donc c'était assez vague. Et mes questions, c'était pourquoi ai-je une bague à mon orteil ? Pourquoi je m'appelle Silène ? Suis-je béni ? Et en quelle langue ce livre est-il écrit ?
Donc un livre que tu avais sur toi, en fait.
Un livre que j'avais sur moi, exactement.
Ouais, sous-entendu qu'il y avait un livre sur soi.
Voilà, ça c'est une des parties des questions aussi qui est montrée dans les exemples, c'est que tu peux induire pas mal de choses. Il y a une question, je crois, c'est du genre « Pourquoi ce chien me suit-il ?»
Ouais.
Donc évidemment, la question suppose en soi-même qu'il y a un chien qui te suive.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur le principe de ces questions, c'est que tu pouvais en faire des assez précises qui... En gros, quand tu avais une idée de personnage en tête, tu pouvais faire des choses assez précises qui amenaient certaines choses. Et moi, j'ai choisi un peu l'extrême inverse, j'ai fait des trucs quand même assez vagues de façon, et j'avais aucune idée de ce que serait mon perso de façon à laisser un peu le truc venir en fait.
Ouais.
Et ça, c'était plutôt chouette aussi.
Rome ?
Alors moi, je m'appelais Ethan Grace, j'étais un jeune homme, j'étais un homme avec un œil cybernétique, un manteau rouge, un col roulé noir, sur mes mains l'inscription néant. Je disposais d'un appareil qui s'appelait vraisemblablement l'œil de la vérité, qui était mon pouvoir. Au niveau des questions, j'avais pourquoi suis-je aussi létal ? Donc, sous-entendu, un personnage un peu bourrin, un peu militaire, un peu capable de tuer, quoi. Qui est le peintre à la dame bleue ? Ça, je m'étais inspiré un petit peu du Samurai Champloo, la nana qui recherche son père ou qui recherche celui qui a tué son père, le peintre au tournesol.
Le samouraï qui sent le tournesol.
D'accord, ok.
C'est une histoire de peintre aussi,
ouais,
à un moment où
elle croise. Voilà. J'ai du mal à lire parce que je suis un peu éloigné de la lumière maintenant. Cette femme me veut-elle du mal ? Voilà,
et donc, tu avais une femme dans ton
souvenir. Très proche de la description que tu faisais tout à l'heure des questions. En fait, tiens, ça implique une femme qui éventuellement veut du mal. Et quelle vérité cet œil me montre-t-il ? Donc, sous-entendu, bah voilà, ça s'appelle l'œil de la vérité, mais vers où ça mène, quoi.
Et donc, on a joué 2h30, un peu plus de 2h. On a joué 2h30, 3h à cheval près.
Ouais.
Alors. La première scène de crash, donc le crash ici, j'avais choisi un camion en pleine nuit sur une autoroute qui est percuté par une voiture familiale. Vous sortez.
Des hommes, enfin, ah mais non, il y a une femme et un enfant qui viennent d'être percutés, on essaye de les sauver.
Voilà, ils sont encore vivants. Le personnage à Flavie essaye de lire plus ou moins dans la tête du mec qui conduisait le camion.
C'est ça.
Ouais. C'est ça. Et mes doigts sont-ils dangereux ? Ben...
Et on a obtenu tout de suite la révélation, puisque donc, Flavie a fait un jet de dés, et dans pouvoir, il y a trois catégories dans pouvoir. Donc, mon pouvoir psychostyle des
Alors,
problèmes.
Alors, il faut déjà dire que plus tu fais dans ton jet de dés, plus c'est haut, mieux c'est.
Voilà.
Plus c'est bas, plus t'es dans la merde. Et quand j'ai fait ce jet de dés, j'ai pas fait des très bons jets de dés.
Voilà.
Ça va être extrêmement difficile à expliquer à nos auditeurs à l'oral, parce que c'est un système qui est extrêmement visuel, je trouve.
C'est ça. En fait, il y a une série de questions auxquelles il faut répondre à chaque fois dans la résolution. Donc, il y a la question objectif, la question souvenir, la question poursuite.
Moi, je veux bien essayer d'expliquer aux auditeurs, déjà, parce que je vois bien comment l'expliquer. Il y a des petits cadres, en fait, sur la feuille. Chaque cadre a un titre.
Blessure, blessé,
blessure, objectif, souvenir, poursuite, pouvoir, capture, blessé, disparition. Je vais vous donner l'exemple du cadre d'objectif. Dans ces cadres, en fait, il y a une question. Est-ce que j'atteins mon but, vu que c'est l'objectif ? Et après, en fait, il y a des tranches.
Ouais.
Selon le niveau de dé, il y a des tranches de dés, et à chaque tranche correspond le résultat d'une action. Par exemple, dans la tranche de 1 à 3, le fugitif échoue, le joueur a la parole.
Pour
le cadre objectif. Ce qui veut dire que quand votre objectif échoue, selon la tranche, c'est vous ou ce n'est pas vous qui va raconter ce qui se passe.
Voilà, c'est ça.
Et selon les tranches, plus vous avez réussi votre jet de dés, par exemple de 4 à 6, généralement c'est très bien, quoi.
Donc là, pour compléter sur objectif, le 4 à 6, c'est le fugitif atteint son but, le MJ a la parole.
Et par exemple, ça, là, la tranche d'en dessous, c'est de 1 à 3, le fugitif échoue, mais le joueur a la parole.
C'est-à-dire que non seulement les conditions réalisent quelque chose dans la fiction, mais elles disent aussi qui a l'autorité pour dire ce qui se réalise. En fait, quand on fait le jet de dés, on obtient un ensemble de résultats, et ces résultats, on les répartit dans différents cadres. Donc je peux décider, par exemple, de mettre mon 3 sur objectif, et du coup, le fugitif échoue.
Au minimum, il y a toujours objectif, souvenir, poursuite.
Pouvoir. Et non. Oui, c'est... Non,
il y a au minimum
objectif, souvenir, toujours, poursuite.
Voilà. Souvenir, c'est est-ce que cela me rappelle quelque chose de mon passé ? Donc on répond à une des questions, sachant que, comme je disais, si les quatre questions sont répondues, la partie se termine. Ouais. Poursuite, c'est à quel point les poursuivants arrivent-ils à réduire leur retard ?
Ouais.
Pouvoir, on utilise ce cadre uniquement si on utilise son pouvoir, donc ça rajoute un dé, mais ça crée aussi un problème supplémentaire. Et là, le pouvoir, il y a trois tranches, hein, y a le pouvoir ne cause pas de problème, le pouvoir surcharge et le pouvoir se déchaîne, sachant que...
Donc en fait, si on prend la case pouvoir, elle est très intéressante parce que vous avez que 5 et 6 qui font des effets vraiment positifs avec votre pouvoir. Si vous regardez bien, il n'y a que le 5 et le 6 qui vous permet. Tout le reste, le 3, 4, il y a une surchauffe, c'est la merde. Le 1, 2, c'est pire, il y a des gens qui sont tués.
Puisque j'ai beaucoup aimé, moi, c'est pas soit... Parce que souvent, dans ce genre de jeu, on a un peu l'impression d'exclure les autres joueurs. Soit c'est LMJ, soit c'est toi qui as la parole. Mais là, on peut donner la parole aux autres joueurs aussi. Et pas que pour pouvoir...
Alors, sur les souvenirs, c'est
aussi
très intéressant. Sur un 1 ou un 3, tu te souviens de rien, c'est le MJ qui a la parole, mais enfin, il raconte rien, quoi. Il raconte juste, tu te souviens de rien. sur un 4 ou un 5, alors sur un 6, le fugitif se souvient de quelque chose qui répond à une de ses questions, le joueur a la parole, mais sur un 4 ou un 5, le fugitif se souvient de quelque chose qui répond à une de ses questions, les autres joueurs ont la parole. Donc c'est les autres qui répondent à ta...
Ce qui est très agréable, c'est que quand on lance les dés, du coup, on garde les résultats et il faut placer le dé en fonction du résultat qu'on veut avoir.
Ah oui, c'est ça.
Et du coup, on choisit finalement. Ben là, sur ce dé-là, j'ai fait un 1, sur ce dé-là, j'ai fait un 5,
ouais.
Sur celui-là, un 4, sur celui-là, un 3. Ben, comment je vais les placer pour arranger la situation ou la faire évoluer ou
On est souvent en situation où on se dit, allez, je mets mon 1 sur souvenir, tant pis, je ne saurais rien, mais au moins mon pouvoir, je mets un 6, ça ne partira pas en couille, etc. Et on répartit comme ça ces dés. Donc ça, c'est,
et
c'est
donc il y a la blessure, il y a encore donc si les poursuivants sont sur le même lieu que vous, vous pouvez vous faire capturer, et si un des personnages est capturé, il peut disparaître. C'est l'équivalent de la mort, hein, l'opération. Enfin, les poursuivants remettent leurs mains dessus et puis la personne disparaît, le personnage disparaît.
Il est incroyable ce jeu pour ça. Hein. C'est très compliqué à expliquer.
Mais ça fonctionne très très bien.
Ça fonctionne super bien.
C'est assez facile. Une fois qu'on a fait un petit tour de jeu, c'est bon.
Ça tourne bien.
Il y a juste un bémol, si je puis me permettre, oui. C'est que parfois ça a tendance à casser certaines ouais. dynamiques sociales. C'est-à-dire, on est dans un truc, on est dans une scène, on est dans une action.
Ouais, et puis
d'un coup, il y a un joueur qui s'arrête.
T'as un temps mort parce qu'il est obligé de réfléchir à ce qu'il fait et aux possibilités, aux choix qu'il a
et
à
le
faire.
Le problème de ça, c'est que du coup, le joueur est dans une situation de brainstorm, mais le mindstorm s'arrête dans la mesure où il y a trois joueurs pendant ce temps-là qui n'ont absolument rien à faire.
Et tu peux rien dire parce que ça va tout définir la suite.
Tout
quoi,
à fait.
Donc,
Par contre, tu peux quand même inciter le joueur à prendre telle ou telle décision. Genre, là, vraiment, on est dans la merde. Faut que ton pouvoir il part pas en couille, tu vois, tu peux inviter quand même un petit peu le joueur à prendre des décisions.
Moi j'ai vu un autre bémol,
mais bon.
Même si je trouve que ça tourne très très bien. Moi j'ai noté notamment à un moment qu'il y a des moments où en fait les choix sont très compatibles.
Ouais,
je suis d'accord. Par exemple, à un moment, moi j'avais plusieurs 6, dont objectif, j'ai mis mon petit 6, donc dans le petit 6, ben, le MJ a la parole. Et à côté, j'avais mis mon petit 6 dans capture. Et du coup, je n'étais pas capturée. Là, c'était le joueur qui avait la parole. Donc, il y a des moments comme ça où, pour expliquer ce qui se passe après, les deux, plusieurs personnes ont la parole, le MJ et le joueur. Et je trouve que ce n'est pas forcément évident de savoir qui doit prendre la parole.
D'accord.
Quand.
Et de manière générale, même le tout dernier là, qu'on a fait. En fait, objectif, c'est un cadre qui est un peu problématique parce que il y a des fois, ton objectif, c'est d'empêcher d'être capturé.
Ben voilà.
Ton objectif, c'est de te souvenir de quelque chose. Ouais. Donc, à la limite, je me demande même s'il faut vraiment l'utiliser, tu vois, ce
cadre-là.
Ce cadre. Enfin, il y a peut-être des fois où il faudrait dire, bon, on met un dé dessus, mais on s'en fout de. À la limite, ça. Enfin.
Colin. Ouais. Une idée.
Mais je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait dans le jeu notre objectif ça a jamais été de pas être capturé.
Ah
ça
si,
a toujours été donner un coup
le tout dernier regard.
Oui mais c'était non.
Donner un coup,
c'était
pour,
donner
ne
un coup pour ne pas être capturé. Donc l'objectif c'était de donner un coup. Et donc c'est pas hyper utile dans l'avancée de l'histoire en général,
d'accord.
C'est utile dans la résolution de l'action et dans comment ça se passe au moment. C'est pas
vrai
quelque
que c'est
chose de très grand,
c'est intéressant comme voir les choses.
Alors là,
comme le coup du jet de Flavie contre le mec qui
exactement.
La fumée.
On n'a pas été capturé, mais elle a raté son action.
On peut peut-être raconter cette scène. Elle est assez archétypique du problème qu'on est en train de signaler.
Ouais. Alors vous étiez dans un Formule 1, en train de fuir, et puis vous êtes rattrapé par les poursuivants. Voilà. Les poursuivants, j'avais décidé que c'était une espèce de société occulte. Assez
un peu comme des cultistes dans Cthulhu, en
assez
fait.
Étrange. Ben pour moi c'était ouais mais en plus joli.
Pour moi je les voyais plus en. Vous avez vu la série Le Caméléon?
Ah je l'ai pas vu non.
Parce que moi ça m'a fait tellement penser à ça. En plus il y a même un personnage qui tire son petit le petit truc qui lui permet de respirer et tout. Enfin pour ceux qui ont vu Le Caméléon voilà. L'obscure série des années 90.
Ça m'a fait penser un peu à Da Vinci Code aussi sur certains points mais bon.
D'accord. Bon c'est des esthétiques que j'ai un peu en tête en ce moment mais. Bon, c'est pour ça que ça m'est venu. Et donc, il y a un type qui se pointe dans l'hôtel et qui enfin, lui, son signe distinctif. Parce que j'avais décidé aussi que tu peux faire plein de choix sur les poursuivants. J'avais décidé que tous les poursuivants étaient chacun différents à leur manière. Il n'y avait pas de, tu sais, comme les agents dans Matrix où ils se ressemblent tous. Ouais.
Ou les Men in Black.
Les Men in Black ou simplement des forces de l'ordre, quoi, où ils sont tous anonymes, quoi. Et donc, il arrive et il tire derrière lui une espèce de narguilé. Et il va pour aspirer une grande goulée et pour leur souffler à la gueule. Et les personnages de Flavie et de Colin sortent de la chambre en courant.
En trombe.
En trombe. Et alors, là, l'objectif, c'était de balancer des éclairs à la gueule du mec.
Mes termes exacts ont été... Ouais. Je voudrais, tu vois, que dans son corps, là, dans ses poumons, ça fasse
sprouch. Donc finalement, ça n'a pas fait sprouch, mais vous avez quand même réussi à ne pas vous faire capturer.
Voilà.
Donc, mais effectivement, je comprends maintenant avec la réflexion de Colin, je comprends bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que t'arrives à ton objectif, même si en fait ton objectif c'est pas l'objectif.
Moi, je voulais
de l'action,
qu'il fasse sprouch.
Donc,
et c'est pas lui qui a fait sprouch.
Mais vous avez quand même réussi à vous enfuir.
Ça nourrit la scène, mais pas l'histoire, pas ce qui se déroule.
Exactement.
Et puis, je trouve que ça donne une tendance générale. C'est-à-dire que malgré tout, ce truc, selon qu'il est posé sur échec ou succès, ça implique que tout le monde autour de la table, en fonction des autorités qu'il a, va quand même raconter dans un sens donné. C'est-à-dire soit dans le sens de l'échappatoire, soit dans le sens de la sanction. Et donc, je trouve quand même que ça donne une ligne directrice.
Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la fiction
Ouais, si tu veux, Fabien. Après, on peut dire que c'est du runaway, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de fuir.
Vous êtes enfui, ensuite vous arrivez dans un village. Là, vous avez menacé un fermier et.
Romaric.
Romaric a menacé un agriculteur.
Nous, on a sauvé sa femme.
Je lui ai demandé ses clés de voiture.
Et puis, il n'a pas voulu.
T'as perdu une oreille dans l'histoire. Ouais. Ensuite, vous avez volé sa voiture.
tout en mettant feu à la ferme à cause des pouvoirs
de
Flavie. Ouais, voilà, qui continuait à... Vous êtes arrivé au F1, vous êtes soigné, les personnages de Flavie et de Romaric se sont soignés, mais les poursuivants les ont rattrapés, vous êtes parti à l'aérodrome local, vous avez pris un avion, l'avion a décollé, il y a... le personnage de Colin essayait de contrôler l'avion, mais il a invoqué un ange qui s'est plus ou moins incarné dans l'avion lui-même. Vous êtes arrivé en Sicile, l'ange a guidé le... Parce que Dieu est ton copilote, n'est-ce pas, Colin?
Tout à fait. Mais dit comme ça, ça ressemble à une immonde série Z.
C'est, en fait, c'est pour ça que, bah, mon avis, la fiction, c'est juste dire, on va de lieu en lieu.
C'est ça.
Qui sont divers et variés.
Et on ne fait que à la fin, quand même...
Il y a une grosse ellipse.
Voilà, on s'est décidé d'une ellipse. Et puis, donc, genre 6 mois plus tard, vous êtes intégré dans le village en Sicile où vous étiez arrivé. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ils vous ont, les poursuivants vous ont retrouvé.
Oh non, ils nous ont retrouvés.
Ouais.
Et dire que je croyais les avoir semés.
Et là, le personnage à Flavie est capturé.
Après avoir fait Sprooch.
Après avoir fait Sprooch sur votre camping-car, tout à fait. Il se passe quoi? Il se passe que les personnages à Colin et Rome prennent des motos, poursuivent le fourgon dans lequel était le personnage à Fly.
Ouais.
Et il y a un jet de dé final de Rome qui détermine que le personnage de Rome arrive à délivrer le personnage à Fly.
Mais il meurt.
Mais tout en mourant, il se souvient de qui il était.
Ouais.
Et donc finalement, le personnage de ce qu'on a compris, c'est que le personnage de Rome était un artiste. Sans doute doué d'un
regard particulier,
d'un regard particulièrement pénétrant.
C'est ça, j'étais le peintre à la dame bleue.
D'où l'œil cybernétique, qu'il a été séduit par une femme du groupe occulte qui ensuite...
Fais-moi une machine de guerre, mais je suis peut-être mort.
Une machine de guerre.
Enfin bon, bref. Un peu comme Robocop.
On découvre aussi que le personnage de Colin était mort. Puisque
c'était énorme. Sa bague, la relation autour de la bague.
Sa bague au doigt de pied était en fait une étiquette de morgue. Et donc, dans les épilogues, puisqu'après on choisit des épilogues... Oui, tu voulais dire un truc?
Non, c'était en rapport avec la bague et
t'avais ça en tête ou pas?
J'avais absolument pas ça en tête, justement.
Mais c'est génial.
Et je savais pas que ça voulait dire quoi que ce soit d'avoir une bague à l'orteil. Et ça m'a beaucoup amusé que vous trouviez une signification comme ça. Et j'imagine que c'est la réalité.
Un petit truc qui est attaché à ton orteil, tu vois. Ouais. Donc l'étiquette est tombée.
Ouais. C'est pas évident. Enfin, ça se passe pas. De fait, ça ne se passe pas comme ça. Mais l'idée est tellement classe que ça a tout de suite
et du coup par hasard temps, ça a bien collé avec le fait d'être banni avec l'espèce d'ange avec ça et c'était c'est...
en fait à partir du moment où on avait
donné Jésus-Christ en fait
à partir du moment où on avait
ça fait de moi Lucifer, c'est tellement classe.
À partir du moment où on avait donné cette explication, c'est clair qu'on avait une vision de ton personnage qui était assez évidente. Ouais.
Oui, parce que tu l'as joué aussi comme un personnage gentil fondamentalement qui refusait de faire
un ange, une sorte d'ange.
Ouais. Et donc toi t'as choisi enquête, c'est-à-dire que tu continues ta route dans tous les sens du terme. Et Fly fait une découverte en fait ou retourne la situation. Elle a compris que c'était elle qui dirigeait la. Oui, parce que je m'étais amusé à mettre des noms genre unité Baphomet, unité Jéhovah,
pour renforcer le côté occultiste.
Le côté occulte, voilà. Et
ésotérique.
Et donc vous étiez désigné comme l'unité Jéhovah.
Et moi j'étais Jéhovah Alpha.
Jéhovah Alpha. Et donc c'est comme ça que après t'as dit ah mais c'est moi qui dirige en fait.
Et en même temps c'est pareil, là encore une fois c'est cohérent parce que quand elle se réveille, elle a les uniformes, enfin elle porte des vêtements aussi bizarres que nos poursuivants, tu vois. Donc il y a une espèce de cohérence qui se trouve là et qui est très 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 intéressante. Moi j'ai plein de trucs à dire, après je sais pas comment vous voulez organiser ce podcast.
Alors je pense pour moi j'ai des choses à dire.
Je t'en prie Fabien.
Sur le one shot, je pense que le one shot est sans doute la moins bonne manière de découvrir le jeu.
C'est un jeu à campagne ?
En principe, ça se joue en plusieurs sessions, oui. C'est comme ça que les règles le proposent.
C'est donc là la différence entre session et partie.
C'est ça, tout à
fait. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que là, on est toujours en speedrun, entre guillemets.
Oui,
ou en
alors
runaway.
Je pense qu'effectivement, là, on l'a joué à un rythme effréné.
C'est pour ça parce que moi il m'a manqué mes scènes d'introspection. Scènes où, comme dans Spider-Man, quand il est en train de découvrir ses pouvoirs, il regarde ses mains, il fait waouh, j'ai des poils au bout des doigts quoi.
J'ai eu la même chose dans le Formule 1 et ça se rapporte directement au système parce que Romaric a fait avancer les poursuivants de deux cases directement alors que normalement on aurait pu avoir un peu un temps de pause. Et là je voulais utiliser mon pouvoir pour avoir une espèce de scène d'introspection, mais du coup on a été de nouveau dans cette espèce d'optique de fuite.
Et alors, les règles ne le précisent pas comme ça, mais donc parce que en principe, si on jouait plusieurs parties, il y aurait plus de questions à se poser. Quoi. On peut, ouais, a priori, la feuille de perso nous en laisse jusqu'à 6, mais je pense aussi que ce serait beaucoup plus intéressant, ça c'est un truc que les règles ne proposent pas, de jouer, vous savez, où quand on se souvient de trucs, on se souvient de trucs par petits morceaux. C'est-à-dire, tu vois,
ouais, comme dans Il était une fois dans l'Ouest, où au départ, le souvenir est brumeux, on voit une silhouette. Et puis, plus tard dans le film, la silhouette se précise. On voit que c'est un homme. Puis ensuite, on voit qu'il a un chapeau et un flingue. Puis ensuite, on voit qu'en fait, non, il était deux. Enfin, tu vois, il y a comme un espèce de souvenir.
Et je pense qu'effectivement, il y aura quelque chose, tu vois. Il y aura une manière de faire les choses de façon beaucoup plus justement introspective, prendre son temps, où tu découvriras les choses par morceaux. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon ben voilà, là j'ai plusieurs réponses, tout un tas de réponses à une de mes questions. J'estime, moi comme joueur par exemple, que cette question est répondue, enfin qu'on a répondu à cette question, qu'il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Et c'est vrai que ça donnerait un tempo un peu plus...
un peu plus lent, un peu plus contemplatif.
Voilà, c'est ça. Moi j'ai vraiment manqué de contemplatif dans cette partie. Il y a eu des moments à la Die Hard. Bon, aussi parce que Romaric était cabotiné un petit peu.
Il a carrément imité Bruce Willis.
Attends, je jouais mon personnage. J'avais prévu ce perso-là. Moi, c'était dans mon trip. C'était ça, parce qu'on a vu avec Fly, on s'est fait une soirée Die Hard là récemment. Il était nul. Je vais refaire le film, quoi. Moi, j'étais carrément...
Le 5, il est vraiment à chier.
Et en plus, je suis parti sur
en ayant
mot fugitif m'a beaucoup inspiré, parce que ça m'a fait penser à Kimble, à Richard Kimble au film Le Fugitif, et je me suis dit, ouais, je veux jouer un personnage comme ça, quoi, un peu bourrin avec beaucoup d'action, ça saute dans le mec, il a une vérité à prouver.
Ouais, enfin, t'as quand même vachement caboté avec les blagues, avec les tout. Enfin,
ouais, bien sûr.
T'as tout fait.
Et en même temps, il y a rien qui m'en empêche.
Ah, non, c'est vrai. Pas.
Alors, justement, tu parlais de couleurs tout à l'heure.
Ouais, et moi, je pense que c'est ça qui m'a manqué, en fait.
Je pense que c'est effectivement, c'est un peu, ça me fait un peu penser à Zombie Cinéma.
J'y pensais pour les joueurs, pour les méchants qui avancent.
Ah oui, alors
ça me fait tellement penser à ça. Ouais,
ça ressemble à ça aussi, mais. Ouais.
Mais moi j'y pensais aussi parce que Fabien et moi par exemple on a une discussion là-dessus autour de Zombie Cinéma, notamment dans le podcast d'ailleurs sur Zombie Cinéma on discute, où Fabien pense que Zombie Cinéma c'est un jeu très psychologique où y a une histoire d'entraide, en fait c'est un drame humain presque qu'il faut jouer, et moi je dis non, Zombie Cinéma c'est un jeu
alors soyons clairs, je l'ai jamais joué en mode drame humain, hein.
Alors pourquoi
magnifique.
Moi ça a toujours été
qui te tire des larmes à Zombie Cinéma,
mais moi ça a toujours été un des jeux qui m'a le plus fait rire, quoi.
Et quand tu m'as dit à un moment donné,
si tu veux survivre, fais tomber ton pote, quoi. Enfin, moi je le joue en mode méga pute, hein, Zombie alors, Cinéma, c'est drôle.
Quand tu m'as dit à un moment donné, quand tu m'as dit dans la partie, tu m'as dit ouais, mais non, là on n'est pas dans ça, c'est pas ce que j'attendais du jeu. Je me suis dit ah putain, on est dans un schéma Zombie Cinéma, et j'y ai beaucoup réfléchi. Et donc, je me dis, c'est exactement pareil.
Je pense que c'est un peu comme dans Zombie Cinéma aller jusqu'au bout de mon idée, où soit il faut se connaître, soit il faut un peu discuter de ses attentes avant.
Exactement.
Et moi, c'est vrai que j'ai été un peu déçu de cette partie parce que au début, tu vois. Je voyais, ah ouais, lui, il a écrit néant sur ses mains. Il a un espèce d'œil qui s'appelle l'œil de la vérité. L'œil de la vérité. En plus, bon, j'ai tendance à beaucoup aimer tout ce qui est symbole.
Moi, je pense qu'on était dans la même partie, toi
sans
et
doute,
moi.
Toi et moi, on devait être dans la même partie.
Et eux, ils étaient sur
une autre. Mais non, regarde, le personnage de Colin.
Il se rapproche plutôt du manque du rythme pour moi, et du manque de synthrospection, et du manque de calme.
Et parce que toi, t'avais un personnage qui était.
Moi, je cherchais à faire ça un peu.
C'est pour ça que j'ai toujours ramené des trucs occultes comme ça. Et moi, je voyais bien un truc. Un peu, enfin, j'ai toujours cette espèce de jeu de rôle dans la tête quelque part, de jeu de rôle parfait qui ressemblerait à ça, quoi, où tu vois, ça aurait un côté très contemplatif, tu découvrirais les choses, et puis il y a toute une symbolique.
S-P-H-Y-N-X, non Sphinx.
Non, il est...
Écoute, le jeu que tu es en train de décrire, c'est ton jeu.
Ouais, mais j'en suis...
Un jeu de rôle contemplatif avec des questions existentielles auxquelles on répond à travers l'exploration de la nourriture.
J'y suis toujours pas arrivé.
Non, je sais bien, mais tu dis c'est un idéal, et voilà, quand on reprend surtout Sphinx, je trouve, et un petit peu La Saveur du Ciel, c'est déjà des pierres sur...
Oui, évidemment.
Sur ton chemin,
c'est un
sur ta quête initiatique. Mais voilà, tu dis ce n'est pas forcément
que, voilà, c'est un peu ce que c'est ce que je me disais. On va enfin avoir la partie parfaite. Ça va être fabuleux. Et puis je vois le personnage de Romain qui est là. Bam, tenez, bande de salauds, bam.
Mais ça, fallait me le dire avant, en fait. Tu m'aurais dit on va faire un truc à la Blade Runner.
Mais c'est pas qu'il fallait le. C'est que effectivement, il aurait fallu
trouver d'une certaine manière une manière de se mettre d'accord. Et en plus, au début, je me disais, mais on n'a pas besoin de se mettre d'accord. Il y avait néant écrit sur les comment ça ne pouvait ne pas être.
Enfin bon,
je veux physique.
Un mec,
qui a peint la dame bleue.
Ouais, qui est l'homme du tableau à la dame bleue. Ah ouais,
moi, j'ai remarqué que c'était personnage.
Mais oui,
moi, quand t'as décrit ton personnage, je me disais, la vache, il est hyper contemplatif. J'étais d'ailleurs hyper tenue. J'étais là, la vache, il fait un.
Bah moi, je pensais aussi au personnage de Ghost in the Shell et tout ça, quoi, au départ. Mais après, à partir du moment où c'est parti en runaway, en mode, il y a des mecs en noir qui nous poursuivent avec des pouvoirs magiques, là, je suis parti tout de suite plus en mode action.
Oui, mais même dans tes utilisations de règles, enfin, t'as orienté les règles aussi dans cette direction-là.
Tout à fait.
En disant, ah, ils nous rattrapent, et puis ils mettaient tout le temps des 1 sur pour les poursuivants, réduisent-ils leur retard.
J'ai pas eu trop le choix à ce moment-là.
Oh, si, il y a un moment où t'as eu le choix, où t'aurais pu mettre un meilleur dé, t'as préféré utiliser les dés de merde.
Ouais, c'est le fameux double poursuite. Alors, justement, tiens, je voulais revenir là-dessus sur le on n'a pas le choix. Fly aussi, elle a dit à un moment donné, oui, sur les pouvoirs, j'ai pas eu le choix, j'ai dû les tuer, etc. Non, là aussi, on pourrait te rétorquer exactement comme on vient de le faire pour moi. Non, t'as choisi.
Mais en tout cas, en termes de règles, on était.
Plutôt eux que nous.
On respectait toujours parfaitement les règles. Romaric, il était absolument fan de son perso, là, il n'y a pas de doute.
Ah ouais, moi, j'ai trippé comme un cochon. Hein,
mais c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Enfin, on n'amenait pas les mêmes choses, mais exactement comme dans Zombie Cinéma.
Mais moi, je pense, encore une fois, ça manque de couleur. C'est-à-dire que dans Zombie Cinéma, on dit, on va faire un film de zombies. Ok, mais il y a plein de films de zombies différents.
Il y a
un monde entre le film de zombies.
Evil Dead et puis 28 jours plus tard. Quoi.
Voilà, Evil Dead et
28 jours plus tard.
Voilà, c'est ça. Donc là, si tu dis, on va faire un truc à la Evil Dead. Fabi, vas-y, je t'en prie.
Il y a autre chose, en fait. Tu es le seul d'entre nous à la table qui avait déjà l'idée de son perso au moment où il a fait les questions.
Ah oui, ça, c'est super important.
Et c'est pour ça, en fait. C'est pour ça, je pense que c'est ça la règle qui manque, en fait. Je pense que quand tu crées les questions sans avoir l'idée du perso, c'est ça que tu cherches. Tu cherches des scènes d'introspection pour imaginer ton personnage au fur et à mesure, parce que j'ai pas lu le livre de règles, j'avoue.
Oui,
du coup, quand t'as pas les réponses à tes questions, tu cherches à être étonné, à être en introspection, à réfléchir. Mais toi, t'as fait tes questions en imaginant ton personnage et en ayant une idée plus ou moins précise de ce que tu voulais.
Je suis d'accord avec toi. Ouais. Le seul souci par rapport à ça, et on en avait parlé aussi dans le podcast sur Perdu sur les frontières de Manuel Bedouet, c'est que tous les jeux qui me demandent de créer des traits ou des faits en rapport avec mon personnage, je ne sais pas, mais en tant que joueur, j'entends, c'est une capacité que je n'ai pas, je ne sais pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, pour moi, j'ai forcément une idée de ce qu'il y a derrière.
N'importe quoi. Voilà, c'est ça.
J'ai forcément une idée.
Il ne faut pas répondre, il ne faut pas avoir déjà une idée.
Une réponse fixe, non. Je n'ai pas de réponse fixe, mais j'ai une idée.
Tu as une idée très forte.
Une idée, non. Non, 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 même pas. Une idée souple. Ah non, justement, par exemple, la dame bleue et tout, j'avais aucune idée, tu vois, mon idée,
c'était juste... tellement beau, quoi.
Mais, le truc, en fait... Mais voilà, le truc, en fait, c'est que, par contre, ce que je ressens énormément dans ce genre de jeu, c'est énormément de déception quand les révélations arrivent. Je suis souvent déçu. Au final, je sais plus si c'était la dame en noir, au final... Non, voilà. Mon œil de la vérité, il permet de voir l'énergie des gens. C'est ce que vous avez décidé de... Bon, moi, je m'attendais pas du tout à ça.
Oui, mais ta toute dernière révélation, elle a quand même donné de la cohérence à tout ce qui existait jusque-là, quoi.
C'est vrai.
Ça, c'est souvent un truc. Excuse-moi. Ça, c'est souvent une critique que j'ai entendue sur ce genre de jeu où les révélations sont créées à la volée. On dit, ouais, mais il n'y a pas de cohérence, c'est pas préparé, gna 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 gna. Ben. Oui et non, parce que souvent, ce dont on se rend compte, c'est que quand on joue, on arrive, il y a une cohérence qui émerge d'elle-même.
Attends, ça dépend les jeux, parce que là, il y a une cohérence parce qu'on a les questions qui guident au fur et à mesure ce qu'on va trouver. Sur un jeu comme Dirty Secret, je suis désolée, tu peux te retrouver avec des parties complètement incohérentes.
Je connais pas Dirty Secret, mais enfin, bon, en tout cas, j'ai souvent le sentiment que quand le jeu est bien fait, le vide fertile justement du jeu. Amène à la cohérence des personnages.
Tu peux expliquer rapidement à nos auditeurs ce que c'est que le vide fertile?
Le vide fertile, c'est la dynamique sociale qui émerge des règles, au sens où on parle d'une propriété émergente d'un phénomène. C'est-à-dire que, vous savez, on n'arrête pas de répéter à la cellule qu'on ne peut pas connaître un jeu sans y avoir joué.
Uniquement en lisant les règles.
Voilà, c'est ça, sans y avoir joué.
Il faut en avoir l'expérience.
Gameplay émergent.
Exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent quand on joue et qu'on ne peut pas voir quand les règles. Ici, je pense que...
Au-delà de ça, juste quand même une chose, c'est comme un jeu est censé avoir été testé, la personne qui a écrit les règles... connaît à peu près ouais. le vide fertile qu'elle veut créer. C'est-à-dire le vide fertile, c'est pas juste un vide dans les règles où on va voir ce qui va se passer. Non, le vide fertile, c'est un truc qui a été pensé. C'est la dynamique de gameplay émergent autour de la table qui va apparaître à côté des règles.
Elle a pas et été donc, pensée, mais elle a été
elle
expérimentée.
Elle a été expérimentée. On sait que ces règles apportent ça.
C'est ça qu'on plaît.
C'est une espèce de ouais, c'est ça. C'est ça qu'on plaît. Ouais. Donc pour éviter les contresens,
c'est une émotion le vide fertile.
Exactement. C'est une sensation. Ouais. Le vide fertile donc n'est pas un espace de créativité. D'accord. Les espaces de créativité, c'est du genre je peux décider qui est mon personnage. Je peux raconter à quoi ressemble la maison de mon personnage. Je peux enfin raconter qui est la famille de mon personnage. Ça, c'est ce qu'on appelle des espace de créativité. Ça, c'est des choses qui sont laissées, c'est la propriété, voire la responsabilité des joueurs. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, le vide fertile là-dedans, je pense, tient sans doute à la cohérence des réponses qui sont apportées aux questions.
C'est dingue. On avait une discussion sur le vide fertile en préparation de ce podcast et je te disais que c'était précisément pour moi une vision que j'avais du vide fertile.
D'accord.
C'était que c'était un ensemble de réponses que les règles en fait faisaient question en un sens et que finalement le vide fertile.
Mais ça c'est vrai pour certains jeux.
Oui je sais mais là c'est marrant ça.
Alors
colle.
c'est vrai pour ce jeu mais c'est pas vrai pour pour beaucoup de jeux.
En tout cas les questions sont clairement une direction artistique dans ce jeu.
C'est ça.
Fonction des questions qu'on se pose, par exemple, pourquoi ce chien me mord le cul ? Ou si je demande, non mais c'est vrai, qui est le peintre à la dame bleue ? Ça n'a pas le même impact en termes de couleur et de
Mais je crois vraiment que...
Et moi, pour moi, le problème de ce jeu, justement, c'est aussi le vide fertile. Je pense que le vide fertile dépend beaucoup trop des questions. Et comme les questions sont improvisées en début de partie, j'ai tendance à penser que la nature de la partie... va vachement dépendre de l'état d'esprit des joueurs ce jour-là, que ce ne sont pas finalement les règles qui impliquent ce vide, mais plutôt les choix des joueurs au départ.
C'est vraiment un truc de règles.
Ouais, c'est lié au problème là.
Moi, je pense que ce jeu, il mériterait un truc. Il mériterait un supplément de 2-3 pages.
D'univers.
D'univers, de type de question selon le type de partie.
Bah, exactement.
Type ésotérique, type.
Peut-être qu'on pourrait préparer si je devais faire jouer ce jeu. Alors non, pas des settings.
Non, mais des clés. Des clés en main. Non, des personnages clés en main.
Voilà. Si je faisais jouer en convention, effectivement, je créerais des personnages clés en main qui auraient tous des questions qui se. Ouais. Alors c'est
une espèce de pré-tiré dont tu saurais que ensemble ces personnages-là créent tel type de partie.
Créer des trucs dans une
tel type d'expérience.
C'est vrai que ça ce serait une belle aide de jeu à écrire effectivement. Mais alors toi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire, tu vois, comme fan du jeu, quoi, dire. Ah, j'adore ce jeu, tiens, j'ai créé des pré-tirés pour...
Même des listes de mots pour induire certaines questions, tu vois. Je pense que ça serait... Ce serait pas... Mais moi, je le trouve surtout que ce jeu, il a une telle mécanique, je veux dire, c'est génial.
C'est incroyable.
Mais il me fait... Pardon, Colin, oui.
C'est super. Ça fonctionne hyper bien.
Ouais. D'accord. La mécanique. Effectivement, c'est marrant qu'on parle de Zombie Cinéma parce qu'effectivement, il me fait beaucoup penser à Zombie Cinéma.
Ah oui.
Je pense sincèrement que c'est un jeu qui peut t'amener vers des sommets de... ces émotions comme ça de transcendance où d'un seul coup le jeu prend du sens et puis tu planes au-dessus de
et aussi
fiction,
aussi grâce à la responsabilité que les joueurs ont dans le choix de quel dé ils mettent dans quel cadre.
Ouais.
J'insiste vraiment là-dessus, c'est très important, c'est-à-dire que OK, j'ai fait un 6, un 5, un 4, un 3, un 1 et un 2. Mettons, vous voyez la ligne parfaite. J'ai tous les dés, enfin tous les scores de dés possibles. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur mon dé. J'ai lancé 6 dés, j'ai fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ben là, j'ai un choix énorme, épique. C'est-à-dire, OK, je choisis de pas être blessé à 6, mais par contre, mon pouvoir foire et du coup, je vais tuer des civils à 1. Enfin, la manière dont je répartis les dés me donne une responsabilité sur le contenu fictionnel de la partie qui est énorme. Et cette responsabilité-là, elle peut engendrer... Par exemple, à un moment donné, j'ai vu que Flavie est partie dans cette direction-là dans le jeu de son perso. Quand elle a tué l'enfant et sa mère dans la voiture au tout départ, par accident, parce qu'elle a tué deux personnages, j'ai senti qu'il y avait Flavie a eu une hésitation sur le jeu de son perso. Est-ce que j'en ai rien à foutre ou est-ce que ça devient un personnage très problématique existentiel, genre j'ai tué des innocents, plus jamais je me servirai de mon pouvoir. J'ai senti que t'avais été tenté par ce jeu-là. Et quand c'est parti en mode Bruce Willis et compagnie, et les motos et les flingues, bon, Flavie s'est dit, bon, qu'à cela ne tienne, je pourrais pas jouer. Je crois que dans cette partie, je vais fuir et je pourrais pas jouer ça. Donc je pense qu'effectivement, si le rythme diminue, si les poursuivants se font moins insistants,
c'est pas alors... Que, alors, les poursuivants se font insistants pour des questions de règles. Hein.
Oui, alors ça, c'est le premier point, mais il y a un autre point. C'est que moi, j'ai trouvé que quand les poursuivants n'étaient pas là, on se faisait chier, mais grave.
Ben oui, parce que les poursuivants, c'est l'enjeu principal du jeu.
Ben oui, et puis surtout, il n'y a pas de problématique.
Ça s'appelle Psyrun.
C'est leur ah, présence oui. qui crée la crise.
Et c'est pour ça que moi, je pensais que c'était du Bruce Willis.
Du coup, c'est Colin. Étonnant, c'est un peu contradictoire, justement, dans ce principe de rythme. Que le principe, je veux dire, entre la contemplation et la course, ouais. c'est
je me demande en fait
opposé.
Si,
comment on fait pour
peut-être il faudrait que le MJ dise l'action que tu entreprends là, ça risque d'amener la poursuite. L'action que tu entreprends là ne risque pas d'amener la poursuite.
Non, mais il manque carrément des scènes d'introspection dans le jeu.
Justement, si tu veux, s'il y avait ça, s'il y avait ce que je te disais là, ça risque de créer de la poursuite, ça risque pas de créer la poursuite. Le MJ pourrait, tu vois, tuner le rythme, justement. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de faire ça parce que j'avais envie que ça traîne un peu plus en longueur, qu'on prenne notre temps, qu'on ait le temps de respirer.
Je te jure, Fabien, moi j'ai une question plus profonde par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas un enjeu de course-poursuite, je trouvais que le jeu dysfonctionnait. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune raison de lancer les dés.
Ça faisait écran bleu que
bah
tu...
Bah ouais, carrément, parce que...
Alors oui et non.
Parce que, attends, pour une raison simple, juste pour finir, c'est qu'on est amnésique. Donc on ne sait pas où chercher, on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas qui appeler.
Alors, pas tout à fait, il y a... Donc pas tout à fait pour deux raisons. Pas tout à fait déjà parce que tu as des souvenirs et que, bon là vous n'en aviez pas, mais tu avais des... Tout de suite parmi les questions, il y a qu'y a-t-il à tel endroit, ma femme est-elle toujours en vie, ouais. Des choses comme ça, où ouais. Tu pourrais te dire, bon, je vais à tel endroit, okay. je vais vérifier ça.
Tu réponds par les questions, d'accord. Bon, mais alors, et l'autre, okay, l'autre je vais truc, à tel endroit.
L'autre truc, c'est les blessures, Fred.
Ah, j'aime bien.
C'est un compliment.
Ça me va, ça me va. Écoute, si tu m'appelles Christophe ou Fred, ça va, tout va bien.
Christophe,
on a le remplaçant suisse au bout de la table.
On a un Colin de remplaçant.
Je dois perfectionner mon accent encore.
C'est jurassien.
Ouais, je sais. Si.
Et donc, y a les blessures aussi. Alors, justement, sur les blessures, mais un peu comme sur le reste, je trouve que c'est aussi un jeu qui ressemble beaucoup à Ghost Echo. Dans Ghost Echo, quand tu fais un jet de dés, tu lances 2 ou 3 dés et tu as deux cases. Tu as une case objectif, donc, qui est avec 3 tranches, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Donc c'est réussi complètement, réussi mais un peu plus tard et puis raté. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Et la blessure, c'est pas des blessures, c'est des emmerdes. Et donc les emmerdes peuvent s'accumuler sous forme de post-it au milieu de la table. Et c'est extrêmement malin parce qu'en fait, ben, pour accepter que les choses avancent, voilà, si tu fais un jet moyen, tu as un dé qui fait 1, 2, 3 et puis un autre dé qui fait 4, 5, 6. Quoi. Enfin,
alors juste
et
donc, un truc par rapport
pour accepter
à...
d'obtenir ton objectif, tu t'accumules des embrouilles. Ouais. Et ces embrouilles permettent au MJ de continuer la partie, ce qui fait que dans les parties de Ghost Echo que j'ai vécues, étaient des parties vraiment effrénées aussi, où t'étais tout le temps en train sur ton cheval, et puis tu sais, cette espèce de course où t'es là, alors là il y a des hélicoptères, ok, j'abats les hélicoptères, oui, mais des hélicoptères tombent, des mecs, et puis il y a un ravin en face de toi, je saute par-dessus le ravin, oui, mais en même temps je me soigne, et puis voilà. Ce genre de truc complètement ouf, hein.
Alors juste un truc pour dire que apparemment il ne s'agit bien pas du guitariste Ben Harper, mais bien de John Harper.
John Harper, merde. Voilà. J'ai vraiment l'air con.
Non, mais c'est tout.
Mais ça m'énerve parce que.
Non, on aurait eu l'air con si on n'avait pas vérifié, mais on a vérifié.
Mais,
on est
à chaque fois, je fais le
mais on aime bien Ben Harper quand même. Hein.
Mais on aime bien Ben Harper, oui, parce qu'effectivement, Ben Harper.
C'est John Harper, évidemment. Je fais le.
Donc on s'excuse auprès de John.
Il nous en voudra pas.
Voilà, je pense qu'il nous en voudra pas. Donc oui, c'est. Alors moi, c'est justement. Un des points qui me fait dire que ce jeu est bel et bien un jeu de run, et au sens un jeu d'action quand même. C'est-à-dire que pour moi, un des canons esthétiques de ce jeu, c'est la mémoire dans la peau, les Jason Bourne en fait. Et bah oui, parce que pour moi, si le jeu était basé, comme tu le dis, sur la contemplation, je suis d'accord qu'il fait rêver, je suis d'accord qu'on peut faire ce que tu prétends vouloir faire avec ce jeu en ajustant les questions et en prévenant les joueurs, en faisant en gros dans ton système, c'est-à-dire en adaptant les règles et en faisant un système particulier dans lequel...
Mais tu penses que c'est faire mentir le jeu?
Ah non, pas forcément. Non, pas forcément quand même. Je dirais pas que c'est faire contre le jeu. Je dirais que c'est utiliser le jeu.
C'est un mode très particulier du jeu, quoi.
Voilà, c'est une variante.
Okay.
Mais pour moi, le jeu, il est fait pour faire du run, de l'action, etc. Sinon, pourquoi mettre des trucs comme blessé? Si vraiment c'était pour faire des trucs contemplatifs, ils auraient mis des blessures mentales ou des trucs psychologiques.
Là, c'est quand même ouf que vous ayez eu des questions du genre. Je sais plus quelles étaient vos questions.
Parce qu'on a pensé à X-Men. On va pas se mentir ici. Enfin, je sais pas quoi, Colin.
Alors, moi, j'ai clairement. Les seuls trucs, c'est les mèches rouges. En fait, le moment où j'écrivais le perso, j'ai failli mettre les mèches blanches. J'étais clairement la nana qui, lorsqu'elle touche des gens, aspire leur force vitale. Malicia.
Malicia.
Moi, j'étais Malicia.
Ah oui, Malicia. Oui. Mais
et donc, tu vois, quand tu as parlé des doigts qui peuvent être dangereux, j'ai pensé à ça tout de suite. Et tu vois, je me suis dit aussi, bah tiens, elle a une réponse déjà dans sa tête. Elle y a déjà pensé, Colin. Toi, pas du tout.
Moi, je suis vraiment parti du principe que je connaissais absolument pas mon personnage.
Et je pense que c'est toi qui as le mieux joué.
Donc, j'ai écrit une espèce de description physique qui peut passer pour.
Moi, j'ai pensé à Malicia pour l'aspect physique, mais pour le reste.
Moi, je suis vraiment parti dans un canon esthétique déterminé. Quoi. Ouais. Enfin,
voilà. Mes questions, je m'attendais à être surpris. Et ça, c'est juste comme ça, on peut parler d'un point qui était cool aussi dans ce jeu.
Cool, hein.
C'est que, vu comme on pouvait répartir les dés, on peut aussi répartir l'autorité aux différents gens dans la table, et c'était hyper intéressant de découvrir ce que les gens créaient sur notre personnage.
Ouais. Et toi, tu as eu de la chance.
Utilisé, ça.
Toi, je trouve que tu as eu de la chance parce que l'idée qu'a eu Flavie autour de ta bague était vachement intéressante.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai eu moins de chance, c'est-à-dire que l'idée que vous avez trouvée autour de l'œil de la vérité, que ça permettait de voir l'énergie, sachant que Flavie pouvait déjà manipuler l'énergie, c'était juste une redite. J'ai trouvé ça un peu bâclé.
Ouais, et en fait, quand tu sais quoi, j'y ai repensé pendant le scénar et je me suis dit, oh merde, j'avais oublié que c'était l'œil de la vérité. Je peux voir toute la vérité.
Mais tu vois, justement...
Ouais, ça aurait été fun.
Bah ouais. Et là, je trouve que c'est une idée qui va quand même... qui donne de l'eau au moulin aux critiques que Fabien soulignait tout à l'heure. Les gens qui disent, bah oui, quand on improvise dans l'instant, on fait toujours moins bien que quand on y réfléchit. Moi, je pense que ça vaudrait le coup d'ajouter une petite règle qui dit, prenez le temps. À terme, c'est une révélation qui sera donnée par les autres joueurs, qu'ils la notent, mais qu'ils prennent le temps aussi de réfléchir.
C'est aussi pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, ce serait intéressant d'avoir
une réflexion en amont, je pense.
Mais de répondre en plusieurs fois à la question.
Voilà.
Tu vois, et qu'on répond une première fois, la réponse c'est je vois l'énergie à l'intérieur des gens. Et puis ensuite, une deuxième temps, c'est je vois l'énergie créatrice des gens. Ouais. Dans un troisième temps,
c'est en
réalité, je suis un mécène. Et cet œil-là, la quatrième révélation, c'est du genre cet œil-là, je l'ai construit pour pouvoir distinguer les gens qui ont de la puissance créatrice et pour les guider. Enfin, j'imagine à la volée. Mais si t'as un truc comme ça où c'est progressif, parce que à chaque fois tu construis sur ce qu'il y avait avant, ça devient, je pense, plus construit. Tu vois,
Colin.
Ouais, je suis tout à fait d'accord parce que dans ce sens-là, en plus, il me semble que quand on fait l'action et que le joueur met un 4 ou un 5 et nous donne le pouvoir de choisir des révélations, on se sent un peu obligé de répondre à une question qui pourrait avoir un peu un rapport avec ce qui s'est passé.
Ah oui.
Et je sais pas si c'est notre partie ou bien les parties en général, mais il s'est passé beaucoup d'actions directes, de combats et de fuites. Et quand il y avait des questions d'introspection, dans ce sens-là, on était un peu qu'est-ce qu'on met ? Donc on essaie de trouver un truc qui fonctionne un peu avec l'œil, il voit de l'énergie, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un problème de causalité là, c'est-à-dire que je tire sur les mecs en face
et je me souviens de quelque chose
et je me souviens de quelque chose, what d'où ça vient,
je me souviens que ma mère me donnait des petits gâteaux
c'est ça,
lorsque j'étais enfant
un pistolet
les détonations
tu te souviens que ton père il t'a appris à tirer et à défoncer la gueule à des renards quoi,
un truc absurde. Et donc si tu vois, je me demande si bon, là, on réinvente un peu le jeu, mais il faudrait pas que les souvenirs soient quelque chose justement qui soit extérieur à tout ça, c'est-à-dire genre une récompense quand tu réussis un dé et ensuite on le raconte dans une scène introspective justement après.
On réinvente le jeu, mais on tourne quand même beaucoup autour des souvenirs.
Oui.
Et donc c'est pour ça que ce qu'a dit Flavie avant, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Il y a un jeu comme ça.
Un agenda ou un ajout aux règles pour spécifier un peu comment écrire ses souvenirs, un peu plus.
Il y a un jeu comme ça, je vais avoir du mal à m'en rappeler. Je sais plus, il me semble qu'il y a un jeu où tu as des scènes d'introspection comme ça, c'est Dirty Secret ou pas ?
C'est dans Vademecum.
C'est dans Vademecum, il y a des scènes d'introspection. C'est ça.
Sinon, il y a.
C'est moi qui l'ai faite la promo.
Il y a aussi des scènes de ressourcement dans. Il y a un autre jeu comme ça où tu peux faire des scènes de ressourcement, il me semble que c'est dans Dirty Secret, ou des scènes d'introspection.
Dans Zombie Porn aussi.
C'est dans. dans Dirty Secret où l'enquêteur peut faire des scènes d'introspection.
Ouais, et ben ça, c'était vachement bien, les scènes d'introspection de Dirty Secret. Et
c'est refaire des liens, je crois.
Oui, oui, c'est des moments où il peut recoller un des morceaux, je crois. Je sais plus, ça fait tellement
trop longtemps.
Que j'ai pas
joué. Là, ça fait vraiment longtemps. T'imagines, c'était quand on était là-haut encore. Ça fait 6 ans peut-être.
Non.
La cellule, c'est vieux.
Ça fait 4 ans.
Fatigué. Dans les commentaires, rappelez-nous ce qui se passe. Colin, je t'en prie.
C'est pour ça que j'ai assez apprécié cette scène où vous avez pensé vos blessures. Même si les gens sont arrivés vite, ça vous a quand même laissé un peu de temps
et
pour
oui.
faire quelque chose d'autre.
Oui.
Mais on savait que les gens arrivaient, on savait que c'était pas loin le danger, donc il y avait toujours ce
on est d'accord, on voit bien. Ce qui a intéressé autour de cette table, c'est les questions. C'est ça qu'on aurait voulu voir développer. Ouais. Mais au final, si on analyse bien le jeu, qu'est-ce qui résiste dans la fiction ? C'est quoi la résistance asymétrique de cette fiction ? C'est quoi ? C'est des blessures, de la capture, des hommes en noir. C'est quand même très axé sur le combat, la capture.
C'est plus de la résistance mécanique que de la résistance asymétrique, mais oui, ok.
Mais c'est de la résistance mécanique. Ce que je veux dire, c'est que pour savoir quelle est la réalité d'un univers, il faut voir ce qui résiste dans cet univers.
D'accord.
Et là, qu'est-ce qui résiste ? C'est des hommes en noir, c'est du combat, c'est de la capture. C'est en gros, on se débat, on run.
Peut-être que tous ensemble, on n'a pas joué au jeu qui. Enfin, que le jeu est excellent, mais que nous-mêmes, on ne s'est pas mis dans l'idée de jouer.
Je pense qu'on a joué au jeu vraiment, parce que, bon, on s'est marré. Enfin, il faut dire un truc aussi. C'est que là, on est en train de chier. Là, on est en train de cracher dans la soupe. Hein. Je sais pas si.
On a beaucoup rigolé.
C'est énormément.
Moi, je pense pas qu'on crache dans la soupe. En fait, on voit l'énorme potentiel de ce jeu.
Ouais.
On n'arrête pas de dire que les mécaniques sont fantastiques.
Ouais.
Mais il y a 2-3 choses qui vont pas et ça nous fait chier parce qu'on voit l'énorme potentiel
avec
de ce
Fly.
Jeu. Voilà. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu ça.
Non, mais c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord avec la manière dont tu présentes les choses.
Il y a plus de run que de psy, en fait. Et nous, on aurait voulu plus de psy et un peu moins de run.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Mais
en
de
fait.
Psychologique, pas de pouvoir psychique.
Pas de pouvoir psychique. Ouais. Colin, tu voulais ajouter quelque chose ou non ? Je t'ai vu lever ton micro. Non, ok, très bien.
Je voudrais encore.
Fabien, je t'en prie.
T'as encore des trucs à dire sur le jeu ? Expliquer pourquoi j'ai beaucoup apprécié le travail de traduction.
Ah bah justement, j'allais te poser la question du coup.
Moi, j'ai encore des trucs à te poser par rapport au jeu. Ça, la ligne éditoriale, on en parlera après.
Okay.
Ou tu veux en parler tout de suite,
non,
comme
non,
tu veux.
Pas de soucis.
Je me suis posé la question, Fabien, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu trouves pas ça un peu dur pour le meneur de jeu, ce jeu ?
Ah oui, j'ai pensé à toi pendant la partie.
Moi, j'étais plein pendant la partie. Je me suis dit, mais comment il va faire pour improviser sur... Enfin déjà, chacun d'entre nous a 4 questions. Ça fait 12 questions à retenir.
C'est pas moi qui réponds aux questions,
okay.
Je m'en fous.
Chacun d'entre nous a des descriptions données dont tu dois un minimum tenir compte quand même. Je suis désolé, mais là, c'est obligatoire. Ils sont 3, on vient de les improviser.
Okay.
Tu ne les as pas apprises par cœur.
Non, c'est vrai.
C'est super chaud. Les pouvoirs psychiques, c'est difficile.
C'est vous qui les utilisez, c'est pas moi qui m'en occupe.
Ok, moi j'ai trouvé que c'était un peu une position
non,
de MJ
non, non.
à la Grumpf, c'est-à-dire où il y a plein de joueurs qui improvisent plein de trucs, et toi en tant que MJ, tu dois un peu tu dois accueillir tout ça et assimiler tout ça. Et
pas particulièrement, non, si tu veux, et puis vous arrêtez pas de répéter. Si tu veux, c'est tout, comme toujours dans ce genre de jeu, ce qui est important, c'est ce que les joueurs mettent en avant, répètent. Tu vois, le personnage de Fly avait une croix catholique. Je m'en suis servi un moment parce qu'elle en avait parlé. Et puis le reste du temps, elle n'en parlait pas, donc on ne l'utilisait pas. Puis voilà, c'était fini.
Très bien.
Tu
excellent.
Vois, comme vous répétiez, je pense que la difficulté de ce jeu, c'est de faire des poursuivants, pour le MJ, un des vrais enjeux, c'est de faire des poursuivants crédibles, qui soient intéressants, qui fassent peur, qu'ils arrivent au bon endroit, de créer des situations aussi, des situations qui... Tu vois, au début, j'étais un peu paumé, vous courez dans les chambres, vous arrivez à une ferme, et puis Colin me dit, j'entre dans le premier bâtiment que je trouve. Alors, je dis, merde, mec, c'est quoi le premier bâtiment que tu trouves ? Je dis, bon, allez, c'est une étable avec des vaches. Puis alors, je trouve une arme, qu'est-ce que c'est comme arme ? Je dis, bon, alors Colin, ça va être une barre en métal parce qu'on est dans un survival horror et puis ensuite on sort et puis il y a un agriculteur qui arrive et puis enfin
ouais,
donc
c'est...
je pense que c'est surtout créer, ouais,
créer des situations
qui ont du sens Et, ouais. Et c'est aussi maîtriser un Romaric qui déborde d'énergie.
Note bien que.
Et qui après fait un peu comme les enfants de maternelle qui, après avoir couru tout autour, font je suis crevé.
Note bien que tu as du mal à trouver des problématiques quand on n'est pas dans l'action. J'insiste là-dessus.
Oui, mais je suis d'accord avec toi.
Eh oui. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le jeu te donne pas. Moi, je trouve que le jeu te donne pas assez de clés pour de l'enquête. Et alors tu vas me répondre, ouais. Mais si, parce qu'on peut faire des questions dans lesquelles on a des adresses à explorer.
Non, je suis d'accord,
Il y a.
Et surtout qu'en plus,
il manque quelque chose.
En plus, c'est pas. Si tu veux, comme le souvenir, tu ne le réponds que dans l'action, en fait. C'est ça le problème.
Mais oui, mais ouais.
Le souvenir, tu n'y réponds que dans l'action.
D'où les. C'est pour ça qu'on a de décalage entre ce qui est révélé et l'action.
C'est
qu'on
pour ça que je, si je devais réécrire le jeu, par exemple. Mais enfin, je placerais pas le souvenir, ce serait pas un cadre durant les, ce serait un truc que tu obtiendrais avec des points que tu dépenserais et puis
justement dans les moments où t'enquêtes,
c'est ça,
où tu,
et que tu aurais des moments à l'extérieur où tu pourrais chercher effectivement
en fait. Il faudrait deux types de lancers de dés, des lancers de dés d'action avec les alors, cases ouais. Ici la blessure tout ça, et des lancers
je
de
résoudrais
dés,
sans,
dire,
sans doute pas comme ça, mais
pas bon, ouais.
pas avec le lancer de dés, mais oui, enfin, il faut ça, deux enjeux différents, il faut deux enjeux mécaniques différents. Oui, tout à fait.
Le psy et le run, toujours. C'est ça. Et pas uniquement le run. Je trouve que le jeu est très orienté run. Là. On voulait parler un petit peu de l'édition. Est-ce qu'il y a encore des retours à faire sur la partie en elle-même?
C'était quand même une très bonne
partie. On s'est éclaté.
Moi, je me suis bien marré.
On est très critique, mais parce qu'on est, comme toujours, très exigeant. Mais ça, c'est la marque de la cellule. Si après 6-7 ans de podcast, ça se voit pas.
Non, et puis il faut vraiment y jouer, ne serait-ce que pour découvrir ces mécaniques-là.
Il faut le trouver.
Ah ouais, ce jeu, il faut y jouer. Hein. Ça, c'est indispensable. Je sais pas comment le dire. Je sais pas, on peut pas noter les jeux sur la cellule, on le fait pas, on veut pas le faire. Mais ça fait partie des indispensables, des jeux à tester, parce que ça va vous donner des
puis
idées.
C'est surtout,
de mécaniques.
Depuis, on vous parle de nombreux jeux depuis longtemps, et les années ont passé, et il y a des jeux dont on vous parlait au début de la cellule qu'on vieillit.
Ouais, tout à fait. Et comme Inspectors, par exemple, dont on disait qu'il avait vieilli.
Oh, Inspectors, moi j'y ai joué il y a 7 ans.
Si tu as joué avec moi, tu as même fait le podcast.
C'était super. Et
non, tu te trompes, c'était avec un autre Fabien.
Mais non, c'était avec Steve et à Paris. On a fait le podcast ensemble, et même tu as défendu le jeu en disant que oui, alors on était très critiques, mais qu'il fallait quand même se rappeler que c'était un
j'étais
jeu qui était révoltant, qui était révolutionnaire à son
absolument,
époque.
Absolument plus de la partie. Je me souviens de l'avoir fait, maintenant tu me le dis. Mais
c'est, bon. En fait, c'est heureusement que tu étais là, parce que sinon on partait en critique du jeu. Et toi, tu nous as rappelé, attendez, historiquement, il a été créé à telle date, donc à l'époque,
c'est
une révolution.
C'est le genre de truc que je.
Et alors que nous, on était partis en mode négatif, et ça rejoint ce que disait
Fabien. Et là, du coup, celui-là, Psyrun, faut le tester, parce que actuellement, ça, je trouve que c'est une mécanique un peu que j'avais pas vue avant.
Bon,
moi,
c'est sorti en.
Il faut que Grumf teste ça.
Hein. En 2011, ouais, c'est ça.
Si Manuel
ouais, mais
Bedouet
c'est aux
ou
États-Unis, donc on ne l'avait pas forcément. Le temps d'être traduit, là, faut vraiment aller voir ce jeu. Il est chouette. Hein.
J'ai trouvé le jeu bien. C'est...
Bah, du point de vue des mécaniques, mais
pour
y a
moi,
beaucoup
c'est un jeu
qui
est aussi
qui
intéressant qu'un jeu comme Zombie Cinéma, que j'aime beaucoup, qui n'est pas au niveau de perfection de jeu comme. Blistage, Dogs ou Innommable.
Ah ben Dogs, de toute façon, il n'a pas vieilli. Hein, moi, je le relis encore régulièrement. Au niveau
Dogs,
de l'explication des règles,
ouais.
Dogs, il est incroyable.
Ouais, ça, je suis d'accord.
Même quand tu joues pas, quand tu lis le truc, tu te prends une grosse claque. Quoi.
C'est probablement encore aujourd'hui le meilleur jeu d'un point de vue explicatif, en fait. Dogs, hein. Je pense, en termes d'explication,
pas,
de clarté.
J'en suis pas convaincu.
Et puis, il a une espèce de beauté christophienne. Mais... Tu sais, Christophe, il a une manière d'expliquer les choses.
Alors, moi, je l'ai lu en anglais. Je le trouve en anglais vraiment... il est bien expliqué.
Tu vois, moi, ce qui m'épate, c'est la qualité des règles. Plus que de
alors, moi, il y a un truc. Il y a une vision, tu sais, Sido Elfine, qui définissait la simplicité comme le jeu simple, c'est le jeu dans lequel, si tu enlèves une règle, tout s'écroule.
Il n'y a rien besoin
d'enlever si tu enlèves un seul truc. Et moi, je trouve que Dogs in the Vineyard, à ce niveau-là, ça reste encore un modèle du genre.
Ça, je suis
c'est
assez
doux,
d'accord.
C'est simple. Il y a une douceur dans son explication qui est naturelle.
Une fois que tu as compris le jeu, hein, parce que beaucoup de gens disent que le jeu est compliqué, c'est pas faux.
En revanche, celui-là, au niveau Psyrun, au niveau des mécaniques, faut découvrir ces mécaniques-là, parce que je pense qu'elles peuvent amener à plein de très très bons jeux. Comme on disait tout à l'heure, si on est critique, c'est parce qu'on voit toute l'étendue de ce qui peut être fait
je
à partir de
des
ça.
Des jeux très orientés action. Mais Ghost Echoes,
mais LG.
C'est aussi dans...
Moi je dis à tous les gens qui aiment les jeux John Doe, vous devez tester ce jeu. Et le Grumf, qui aime les jeux John Doe, puisque c'est lui-même qui les fait... Eh ben, je lui conseille de tester ce jeu parce que ça me fait vraiment penser. Tu m'aurais pas dit que c'était du Baker. Intuitivement,
Mega
j'aurais
Baker,
dit...
hein, pas Vincent.
Oui, je sais bien. Tu m'aurais pas dit que c'était La Forge et tout. J'aurais dit intuitivement, c'est quoi, c'est le nouveau John Doe là qu'on est en train de tester, parce que c'est exactement le genre de truc qu'ils aiment. Un MJ soumis à plein d'improvisations comme ça, en même temps des joueurs à qui on donne une part de la narration. Ça fait un peu penser aussi à Apocalypse World dans certaines
dynamiques.
Mais
tu sais que Apocalypse World, me semble-t-il, les règles d'Apocalypse World sont inspirées de Ghost Echo.
D'accord, ok.
C'est-à-dire qu'il y a ce même choix de je lance des dés et ensuite je choisis différentes possibilités avec.
C'est ça, en fait, tu choisis les dés finalement fixent qui va avoir l'autorité. Tu choisis l'autorité, tu choisis à qui tu donnes l'autorité. C'est vachement. Intéressant. Et du point de vue du Maelstrom, j'aurais plein de trucs à dire, mais bon, je vais pas l'analyser Maelstrom parce que ça vous saoule.
Voilà, comme dit Flavie, c'est des règles qui permettent sans doute d'orienter vers quelque chose très punchy où ça bouge tout le temps. Beaucoup à la manière, il faut vraiment tester Ghost Echo. Hein. Sincèrement, en plus, Ghost Echo, ça fait deux pages. C'est vraiment un jeu unzippé. Je crois qu'on a jamais testé sur la cellule.
Il faut qu'on le fasse. Non,
mais
c'est un
mais
jeu
ça, je peux te le faire. Moi, je sais.
Ouais, il faudra le faire.
Je sais être MJ à ça. Donc,
Très bien. C'est noté. Hein. Et ne pas soutenir ou l'appeler Ben Harper pendant tout le podcast, à ce moment-là, ça fera une espèce de petite running glide. Bon, bref.
Tu voulais nous parler
de l'aventure éditoriale.
Ça a été traduit par Alexis Lamiable. Et sincèrement, je trouve que c'est un. La mise en pas. Enfin, tout est beau, tout est bien fait dans ce projet. Il a fait un crowdfunding sur Ulule, où il demandait au départ 750€. Allez voir la page du crowdfunding, c'est un modèle, je trouve, d'élégance, de sobriété, où tout ce qu'ils proposent ne sont que des choses qui sont nécessaires pour le jeu. Par exemple, les petites figurines en bois qu'on a utilisées, elles ont été utiles pour la poursuite, les poursuivants. Là, évidemment, on ne peut pas les montrer.
Tu veux dire qu'ils ne proposent pas des sacs en cuir et des dés en plomb pour jouer ?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'était vraiment, vraiment utile. Faire une traduction pour 750€, je trouve qu'en plus, c'est élégant parce que ça ne demande pas beaucoup. Et il a réuni 3 500€, me semble-t-il, à un cheval près. Donc là aussi, ça a très bien marché, mais... C'était relativement modeste comme levée de fonds pour faire la trad du jeu. Le jeu...
C'est sur Ulule, hein. Si vous voulez aller le voir, c'est sur Ulule.
Oui, tout à fait, c'est sur Ulule. Le jeu lui-même, je ne connais pas le jeu original, mais je pense qu'il a vraiment fait un vrai travail pour respecter le jeu tel qu'il était à l'origine. En rendant cette maquette très sobre. La traduction est excellente, elle est vraiment très très propre. J'ai dû voir une toute petite coquille à un endroit, mais vraiment en cutie.
Ah, c'est cool! Sur la page Ulule, vous voyez un truc que j'adore dans ce jeu d'un point de vue éditorial, c'est ces fameux dialogues, exemples de dialogues entre les joueurs et le MJ. Si vous allez sur la page Ulule, vous allez voir en fait une page qui est photographiée, dans laquelle on voit en fait qu'il a mis en scène à la façon d'une espèce de petite BD, mais vous allez voir, c'est presque mieux fait qu'une BD, en tout cas pour la présentation de règles, je trouve, parce que c'est un peu plus clair, où en fait le MJ répond à ses joueurs, et ça donne des orientations, des idées de comment expliquer une règle, ou comment inspirer ses joueurs au cours de la table à créer telle question. Je trouve ça fabuleux. Cette présentation, j'ai presque envie de la reprendre pour...
Il n'a rien à rajouter par rapport au jeu original. Il a gardé le jeu tel qu'il était à l'origine, et ça, je trouve aussi que c'est un vrai respect qu'il faut avoir, en particulier pour des auteurs indés, de faire une traduction donc, dans laquelle tu rajoutes pas d'illustration, tu es aussi proche. Alors, je suis pas sûr qu'il soit aussi proche que ça de la version originale. Comme dit, je la connais pas, mais enfin, bon.
Alors, bon, à contrario, il y a le jeu Polaris de Ben Lehman.
Non, bah, ça va, il a été. Il est...
Ouais, mais les illustrations ont été rajoutées pour autant.
Oui, mais enfin,
elles ressemblent
vraiment aux illustrations originelles. Ouais. C'est pas les mêmes, mais il y a le même noir et blanc, il y a le même thème.
Oui, non, mais voilà, c'est pour te dire que parfois, c'est pas parce que les illustrations changent que ça peut pas être fidèle.
Que ça peut pas être fidèle.
Parce que là, il y a un problème avec l'illustrateur de Polaris, je crois qu'il veut pas laisser.
Non, c'est des illustrations d'un livre. Les illustrations du Polaris originel, c'est un truc traditionnel en fait.
C'est complexe.
Je crois que le mec est mort depuis longtemps.
Ouais, voilà, il y a c'est complexe en tout cas.
Et un truc intéressant aussi, je dis ça parce que j'avais fait la traduction de Slay With Me de Ron Edwards, et dans Slay With Me, c'est de l'anglais, donc tout est neutre. C'est-à-dire qu'il y a héros et héroïne, je ne sais plus comment ça se disait, mais ça se disait de la même chose. Et c'est la même chose dans Psyrun. Un runner, c'est neutre, alors que fugitif, c'est masculin. Et donc il y a une note pour dire, le texte américain accorde les personnages au féminin, puisque en anglais, tu peux plus facilement avoir des... Enfin, le she, ça peut plus facilement être considéré comme du neutre. Avec l'accord de l'autrice, nous n'avons pas conservé cet usage, car le français nous aurait obligé à dire fugitive, là où runner est neutre, note du traducteur. Et rien que ça, je trouve bravo Monsieur l'amiable, félicitations, je trouve que c'est...
Il sait poser les questions, c'est très bien.
Il sait poser des questions essentielles, des questions de neutralité de genre qui, en plus du passage de l'anglais au français, sont élégants. Et on voit qu'il en a parlé avec Meggie Baker. Donc voilà, j'ai juste envie de dire chapeau bas.
Oui, c'est un excellent travail.
Donc vraiment très beau travail. Je le dis d'autant mieux qu'en général, le travail de traduction, on n'en parle jamais quand il est bien et toujours quand il est,
il est
mal.
C'est vrai, ouais, ça c'est tellement...
Et petite blague, petite anecdote, puisque je parlais de la traduction de Sleeves Me, je racontais qu'il y a un type sur Internet qui m'avait fait un compliment, qui avait dit quelque chose du genre...
Oui, c'est drôle.
Ah, j'avais acheté Sleeves Me en français, donc qui était sorti à la boîte à eux. Et puis...
J'avais trouvé que le traducteur était...
J'avais trouvé que la traduction n'était pas terrible. Puis ensuite, j'ai vu la version originale et je me suis dit que le traducteur avait fait ce qu'il pouvait. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu te débats avec des règles pour essayer d'être le plus fidèle, enfin à la fois fidèle et lisible, et que bon ben c'est pas toujours facile.
Est-ce que vous vouliez revenir sur d'autres choses vis-à-vis de ce jeu? Bon, la fiche de personnage, moi j'ai eu un petit par rapport à l'édition.
Ah moi si j'ai un tout petit truc, il y a pas assez de place pour écrire les questions.
Mais bon, le bouquin est en A5 et il faudrait effectivement avoir un truc plus grand. Ouais, je suis d'accord.
Je trouve que le jeu non plus, tu disais ouais ça se joue en campagne et tout ça, je trouve que c'est pareil, la fiche de personnage ne laisse pas penser du tout. Il y a pas une dimension, voilà. Et d'autre part par rapport à la fiche de personnage, j'ai trouvé ça assez confus au niveau quand on lançait les dés.
Ah oui.
Pourquoi on les lançait et dans quelle case on allait devoir utiliser ces dés. C'est-à-dire que, ok, combien de dés à lancer, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on peut lancer jusqu'à 6, 8
dés. Au minimum
dés
4 et au minimum 4, maximum 6.
Maximum 6. Et en fait, on lance des dés. Par exemple, si on a un risque d'être blessé, bon bah, pof, on lance un dé. Si on juge qu'on est exceptionnel, on lance un dé. Donc ça on le lance tout le temps en fait. Un objectif important,
oui,
bah, évidemment
c'est, vous avez ces quatre là, c'est juste pour te en fait, ça je suis pas sûr d'avoir bien interprété les règles, mais bon il faudrait,
enfin
là aussi comme dit, c'est la première fois que j'y joue, donc il y a peut-être des imprécisions.
Ouais, mais enfin,
quand lance-t-on les dés? Je vous lis les règles, ça j'étais pas sûr de comprendre. Fabien. Quand lance-t-on les dés? Lancer les dés dès qu'un fugitif effectue une action significative. Souvenez-vous qu'une une action significative est quelque chose qui, tiret, peut tourner bien ou mal, tiret, montre à quel point le fugitif est exceptionnel, tiret, pourrait potentiellement déclencher un souvenir, tiret, nécessite du temps et de la concentration, tiret, pourrait présenter un danger pour le fugitif ou attirer l'attention, point.
Ouais, et si tu l'as bien joué, je trouve.
Mais je ne sais pas si c'était... Tu vois, est-ce que... Bon, je pense pas que ce soit comment dire,
vous êtes d'accord,
cumulatif.
Oui, oui.
Vous parlez ouais,
en
dehors
de la micro. Je pense pas que ce soit. Ça doit à la fois tourner mal, montrer que le fugitif est exceptionnel, déclencher sans pouvoir.
Je me suis senti exceptionnel.
Bah, t'étais exceptionnel.
C'est merci.
Tu l'es toujours, Flavie.
Oui. Donc oui, là, c'est effectivement, on voit bien quand est-ce qu'on lance les dés. Non, moi, ce que je trouve qu'on voit pas et qui est pas clair, c'est pourquoi on les lance. Dans quelle catégorie? Est-ce que dans objectif, souvenir, ouais, poursuite,
bon,
capture, blessure, pouvoir,
blessure. Ça revient tout à l'heure ce qu'on disait sur l'utilisation d'objectifs.
Et après, j'ai compris que la fiche se lisait de haut en bas. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on lance pour les trois là. Pour les trois du haut, oui, je suis en train de montrer les trois là, les auditeurs ils voient pas. Sur les trois les plus en haut de la fiche, les trois cases qui sont inscrites en haut, ouais, et ensuite ça descend plus ou moins sur les cases en bas. Et plus on est dans la merde finalement, et plus ça descend bas, plus on lance sur des cases qui sont bas dans la fiche. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Là où par exemple un jeu comme Miles Christie, du point de vue de la fiche de personnage, est beaucoup plus clair. On a des choses qui sont beaucoup plus.
Enfin là on va
dans le pinaillage.
On pinaille.
C'est un one shot de l'institut. On pinaille, on ne fait que ça. Sinon, le one shot durait 30 secondes, à savoir, on a kiffé la partie et ça s'arrêterait là. C'est le principe du one
shot.
Donc
voilà, la seule question que je me pose sur la diffusion française, c'est, je ne sais pas quelle est la.
Il y a quatre questions que tu dois te poser, donc je te rappelle.
Quelle est
question 1.
Quelle est la disponibilité à l'heure actuelle? Je pense que tu dois toujours pouvoir récupérer quelque part le PDF.
Ouais.
Il faudrait aller voir sur le site d'Electric Goats. Le label de traduction d'Alexis Lamiable. Je sais pas, je me pose la question, mais c'est vraiment.
Tu l'as chopé comment?
Moi j'avais participé au crowdfunding.
Ah, c'était il y a longtemps?
C'était en 2015.
Tu vois, okay. c'est pour ça qu'on
là aussi, un crowdfunding qui a été fait en 2015 et je l'ai reçu avant Noël.
Et comment t'as été au courant des divers crowdfunding?
Je sais plus.
Parce que moi, ça c'est une question, et c'est aussi une des raisons des vidéos de la cellule, c'est que les crowdfunding, tout ça, on.
Ça, je le sais via les. J'ai dû le voir via un réseau social.
C'est vachement difficile quand on est un média entre guillemets, qui essaye de promouvoir soit l'indépendance, de parler des crowdfunding.
Je me demande si c'est pas Guillaume, ça doit être Guillaume Carré qui m'en a parlé. D'accord. Qui est un copain et qui participe à tous les crowdfunding.
D'accord. Ouais. Parce que c'est, on sait pas ce qu'on, au final, on sait pas ce qu'on est en train de promouvoir. Parce que le jeu, il est pas encore sorti, on l'a souvent pas testé. Et moi, j'aime pas trop parler des jeux avant de l'avoir testé. Toi, comment tu t'es dit, ouais, Psyron, faut que je like, faut que je follow, faut que je...
Je sais plus, sincèrement.
Ouais, voilà, c'est ça, parce que...
Je sais aussi, depuis un an, j'essaye de renouveler un peu. J'ai l'impression d'avoir beaucoup joué tout le temps au même jeu. D'accord. Aussi parce que je suis allé... Enfin, ça, c'est un truc qui se voit pas, mais je fais un gros travail d'aller présenter les jeux, tu vois. Donc, j'arrive avec mon Dogs, j'arrive avec mon Blistage. Je dis, alors, aujourd'hui, on va jouer à Dogs, on va jouer à Dogs, c'est génial. Et bon, j'adore ça, mais voilà, si toute ta vie, tu manges que des trucs formidables, au bout d'un moment, tu finis par t'en lasser. Alors après, il faut aller tester d'autres trucs. Parfois, c'est bon, parfois, c'est moins bon, mais il faut se renouveler un peu.
Et là, j'ai une liste sur le frigo, si tu veux.
Dans une phase de...
Qui m'a été conseillée par Christophe Beclay.
Ouh,
de jeu, ouais.
Ça c'est précieux, il faudra que tu me la...
Elle est sur le frigo.
J'ai embarqué ton frigo.
Je préférerais plutôt que tu recopies la liste.
On sait que tu vas vider le frigo, Fabien.
Je vais faire un test d'intelligence. Je sais pas si je peux y arriver.
Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Psyron. Je pense qu'on a fait plus
encore
ou moins
bravo
le tour.
Bravo au
traducteur.
À Alexis Lamiable.
Bravo aux auteurs de ce jeu.
Bravo aux auteurs, quand même.
Mais quand on a présenté ce jeu, on s'est dit direct... Enfin, moi, je sais qu'il y en a eu un moment, une phase, où on s'est regardé avec Colin, Flavie. Et on s'est dit, non, mais il n'y a vraiment que la Forge pour créer des jeux aussi géniaux. Quoi. On s'est dit, mais on est...
Ah, moi, c'est dans les exemples.
Oh, c'est...
Mmh. Oui, les exemples de questions sont...
Le jeu...
Les questions sont assez dingues sur les ouvertures qu'elles donnent.
Même dans les mécaniques et tout, d'aller chercher à de la distribution des dés pour la répartition de l'autorité et en même temps pour les succès et tout. Mais c'est d'une ingéniosité. Mais c'est des trucs auxquels, il y a 10 ans, tu m'aurais montré ça. Je pense que j'aurais été exactement comme... un homme du futur qui remonte au Moyen-Âge, quoi. C'est conceptuellement, ça m'aurait fait exploser le crâne. C'est-à-dire que jamais j'aurais pu imaginer un jour qu'un jeu de rôle pareil soit créé. Tu vois ce que je veux dire ? Et chaque fois que je joue à un jeu que tu nous ramènes de la Forge, j'ai toujours cette sensation de redécouvrir la première sensation que j'ai eue finalement avec Dogs, avec Christophe quand il m'a fait découvrir le jeu et Frédéric quand ils m'ont fait découvrir tous les deux le jeu. C'est... Waouh, tout ce qui est possible.
D'accord.
C'est
un petit peu plus optimiste que moi parce que pour en avoir joué à d'autres trucs, justement, notamment pour avoir eu l'occasion de jouer avec quelqu'un comme Guillaume Carré qui connaît très très bien tous ces trucs-là, t'as quand même un moment où t'as l'impression de revoir les mêmes trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert un nouveau champ et ils l'ont beaucoup exploré et presque épuisé dans la foulée. Pas tout à fait quand même, mais parce qu'ils ont ouvert un nouveau champ. Hein. Mais si tu veux, ils se...
Moi, je trouve quand même que entre ça, Apocalypse World, Polaris, Inspectors, Dogs in the Vineyard, il y a un monde. Hein. Je
oui,
trouve
non, je
que c'est des jeux qui.
Je suis d'accord.
Ok, d'accord, il y a des choses... Ok, en gros, ce qu'ils ont ouvert, c'est qu'ils ont fait exploser l'autorité du MJ, ils l'ont réparti
d'accord.
différemment. Pour moi, c'est ça qu'ils ont vraiment ouvert.
Et c'est ce qu'on disait aussi
quand
un
même...
midi, souviens-toi quand on en discutait aussi, qu'ils ont amené des thèmes nouveaux.
Oui, ah oui, ça c'est super important.
Bon, Siren, c'est pas...
Au niveau de la thématique, on trouve beaucoup de jeux de super-héros qui tournent
voilà,
cette thématique-là. Voilà.
C'est pas
la grosse révolution.
C'est pas Breaking the Ice où tu parles d'un couple qui se séduit. Quoi.
Mais quand même, C'est-à-dire, je trouve que une fois que l'autorité... Peut-être une fois qu'on a compris que faire du jeu de rôle, c'est faire des propositions sur des situations possibles et que l'autorité sur les décors, sur d'autres personnages, n'incombe pas forcément d'une manière classique au MJ et à des joueurs. Et que les portes ouvertes créent des possibilités de jeu et de thématiques à explorer qui sont infinies. Et moi, je suis désolé, mais à chaque fois que j'ouvre une porte The Forge, je suis toujours émerveillé comme au premier jour. Je peux pas te dire pourquoi. Mais quand j'ai vu Psyron, j'avais l'impression de redécouvrir. Enfin, ça fait tellement de bien. Enfin, je te jure, ça fait beaucoup de bien. Et là, en ce moment, à la cellule, on teste pas mal de jeux classiques aussi. On retourne beaucoup aux jeux classiques. Moi, je fais des campagnes en ce moment beaucoup pour notre émission campagne. Des campagnes de sens, un jeu de merde, campagne de Néphilim, un jeu difficile avec AMJ, des campagnes d'Agone, des campagnes. On joue beaucoup à des jeux de rôle classiques en ce moment.
Ok, je comprends.
Et je te jure que quand tu joues à un jeu comme ça, tu fais waouh.
Tu sais, quand tu joues en ce moment à Néphilim, malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeu, à un moment, tu tombes sur un truc, tu vois, où la mécanique est fluide, où tu vas pas te mettre à crever pour une connerie parce qu'un ton oiseau t'a fait chier dessus. Ah,
Ou t'es rentré dans la tour qu'il fallait pas.
Ou t'es rentré dans la tour où t'as parlé à un mec et en fait, fallait pas lui parler.
En fait, je pense, Fabien, tu sais quoi ? Tu sais, il me fait penser à quelqu'un qui est resté dans une maison bien chauffée pendant des heures et qui commence à avoir froid. Et à qui on dit, non mais Fabien, faut que tu sortes un peu dehors, là, prendre l'air, et tu vas voir, quand tu vas retourner dans la maison, il fait chaud.
Dehors, il y a des loups, et il neige, il pleut, il grêle, il y a de la foudre, et on se bat avec des pingouins mutants. Et...
Donc ça, c'est
on pourrait se battre avec des pingouins mutants. Oh, ce serait un super jeu.
Ah non, arrêtez, vous me faites penser à Darky, et je vais perdre au jeu, je vais perdre au jeu. Ça y est, j'ai perdu au jeu. J'ai pensé à Darky, j'ai pensé pingouin, j'ai pensé Darky, j'ai perdu au jeu. Bande de salauds. Donc tout ça pour dire que même si je suis d'accord avec toi, t'as déjà ouvert la porte et c'est plus aussi fascinant,
voilà,
etc.
C'est exactement ce que je veux dire.
Pour autant, je trouve que quand tu vois des portes ouvertes comme ça, tu te dis non mais c'est extraordinaire ce qu'on peut encore créer, ce qu'on peut encore faire. Alors, et moi, il m'impressionne à chaque fois.
Une dernière chose, j'aime beaucoup le terme de porte ouverte. Là, je vais parler un peu plus de mon expérience de façon générale. Je crois que s'il y a une chose que j'aimerais dire de façon générale, c'est... En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire à partir de la cellule et à partir de tout le reste, c'est essayer d'ouvrir des portes. C'est-à-dire, ouvrir des portes, c'est simplement dire, il y a d'autres possibilités, donner du choix aux joueurs, aux rôlistes, que ce soit économiquement avec le modèle de l'indépendance, que ce soit ludiquement avec de nouvelles règles, que ce soit avec de nouveaux thèmes en termes d'auteur, avec de nouvelles formes de jeu, avec de... Voilà. Ouvrir des portes, je trouve que c'est une très très belle manière de présenter notre action, c'est-à-dire dire on vous donne le choix et après.
On avait fait un podcast qui s'appelait Les champs qu'il reste à explorer, où tu avais déjà dit ce que tu es en train de dire là, d'une manière peut-être différente, mais tu l'avais déjà signalé. Et en un sens, j'aimerais bien qu'un jour on fasse un podcast, c'est à votre avis. Quelle porte reste-t-il à ouvrir ? Parce que moi, quand j'arrive devant les jeux de The Forge, je me dis non mais ça y est quoi, ils ont
les portes sont ouvertes.
Les portes sont toutes ouvertes et maintenant il reste plus qu'à s'engouffrer quoi. Ils ont, pour moi, c'est comme si
tu vois. Et par exemple, le travail d'Alexis Lamiable me fait plaisir aussi parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ouvre une porte ou qui prend une porte qui était déjà ouverte par The Forge en faisant une traduction qui se fait vite, qui se fait bien. Qui respecte de façon extrêmement élégante le.
Je pense qu'il y a aussi une rigueur intellectuelle.
Moi, j'aimerais bien un monde dans lequel il y aurait plus d'Alexis Lamiable, c'est clair. Ça, ce serait un bel endroit. Ouais.
Ouais, peut-être qu'un des champs qui reste à explorer, c'est de bien importer ou exporter ces jeux à l'étranger. C'est ça que tu es en train de dire. Quoi. En un sens, on ne partage pas assez peut-être avec d'autres
cultures. Non, c'est pas ça. Enfin, on pourrait faire des traductions et de l'édition qui soient sobres.
Ouais, ou qu'on pourrait le faire mieux.
On va à l'essentiel, on va au bon jeu. Hein, voilà, on ne se perd pas dans des illustrations, dans des goodies, dans du show. On va vers un bon jeu. Et puis c'est tout.
Bon, merci Fabien d'être venu nous présenter Psyrun.
Merci d'avoir servi de cobaye.
C'était vraiment vachement, vachement intéressant. Merci Fabien. J'invite encore une fois les gens qui aiment les jeux de John Doe à jouer à ce jeu parce que je pense qu'ils vont l'adorer. Ça donne aussi un petit guide d'achat comme ça parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs de la série qui aiment bien les jeux de John Doe. Donc je leur dis, ça je pense que c'est pour vous. À bientôt tout le monde. Merci Flavie.
Salut.
Merci Colin.
Ciao.
Merci Fabien.
Salut,
à bientôt. Bonne semaine à tous. Prochaine. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut.